Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et je vais quand même pas pleurer parce que le Barça a pris 4-0 quand même, faut pas déconner les mecs.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
C'est marrant pour Baptiste, il y a faute quand même.
Il y a un
coup, limite,
il y a un coup de cul, mais il y a rien d'extraordinaire.
Oh non, non, il y en a marre. Non.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After, spécial drôle de dame, comme tous les lundis soirs, la seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger pour l'Angleterre. Une drôle de dame qui, à la différence de Mo Salah, n'attend pas la 82e minute d'un match pour clasher le Silver et Paul anglais. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous. Effectivement, moi c'est beaucoup plus rapide.
Ouais, c'est même avant les matchs. Pour l'Italie, une drôle de dame qui rêve d'un clash avec Massimiliano Allegri, mais pour ça il faut s'infliger un match de la Juve à Turin. Et ça, c'est aussi de ses forces. Bonsoir Yvan Crochet.
Non, moi j'aime débattre avec les gens qui aiment le football, donc a priori ce sera pas avec Allegri. Bonsoir à tous.
Pour l'Espagne, une drôle dame qui, comme Mo Salah, a eu un jour un clash avec son mentor Daniel Riolo, mais c'était pas à 8 mois de Noël. Fred Armel, bonsoir.
Oh là Chico, ça est pas mal celle-là. Ça allait rester celle-là. Hein.
Bah,
on en parle souvent.
C'est culte. Hein.
Il y en a quelques-unes, hein, mais comme ça.
Et pour l'Allemagne, une drôle dame pour qui le clash Salah-Klopp n'est qu'un échange de caresses mièvres. Rendez-nous la grosse patate façon les Arasou à Matthaus. Bonsoir Paulo Breitner.
Bonsoir mon cher Nico, je valide à 100% ce que tu viens de dire. Quand j'ai entendu Clash, j'ai été précipité pour voir ce que c'était. Bon, franchement.
Ouais, pour toi, c'est surtout un groupe de rock, hein, les années 80.
Mais c'est vrai que les Clash, c'est pas mal aussi.
Les drôles de dames, on est ensemble jusqu'à 22h. De quoi allez-vous nous parler ce soir? Je commence avec toi, Johan.
On va parler évidemment de l'Atalanta avant ce match contre l'OM. On va faire un petit focus sur Gasperini. Est-il l'entraîneur le plus influent d'Italie sur ces dernières années? Spoiler, la réponse est... elle tient en 3 lettres. Voilà. On ne dira pas la réponse totale. On va évidemment évoquer aussi le Scudetto de l'Inter, son 20e, avec la fête. Et surtout, comment ce projet a réussi à amener l'Inter à gagner ce Scudetto et peut-être à ouvrir un cycle victorieux. On avait déjà un petit peu parlé dans l'after. Et puis, on fera un petit tour, malheureusement, du côté de Sassuolo, où ça ne se passe pas super, super bien.
Julien.
On va parler du derby du nord de Londres, bien sûr, entre Tottenham et Arsenal hier, qui était assez spectaculaire. En soi, on va parler bien sûr de l'embrouille, on a déjà parlé entre Salah et Klopp. Et puis aussi le premier promu de Championship en Première Ligue, ça y est, on sait qui c'est.
Fred.
Bien entendu, on va parler du Real, qui dernier représentant espagnol des Coupes européennes, demain qui affronte le Bayern Munich, le classico européen. Est-ce que les Madrilènes ne sont pas un petit peu trop confiants après l'exploit entre guillemets face à City? On va se poser la question. On va parler du derby de Séville, hein, hier soir, parce que ça reste le plus beau derby d'Espagne, j'expliquerai pourquoi. Et puis, on va évoquer les clashs, je vais me souvenir d'un clash dans le vestiaire du Real avec deux Portugais.
Voilà.
Polo.
Bon, ben, évidemment, on parlera du Bayern Munich pour le fameux derby d'Europe avec contre le Real, fait les forces et les faiblesses. Je pense que le public français, en tout cas parisien, va aussi s'intéresser au match de mercredi entre le Borussia Dortmund et le PSG. Donc on va regarder un petit peu, est-ce que ce Borussia Dortmund est si faible qu'on veut bien le dire, ou en tout cas que veut l'écrire la presse française. On s'intéressera un petit peu au fameux Chabi Time, là en ce moment, qui me fatigue énormément, sauf pour les footix. Et la dernière petite minute, on s'intéressera à un club de Bundesliga.
Voilà le programme des drôles de dames. Beaucoup de questions également déjà sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour vous abonner, poser vos questions. Tiens, je tease, hein, Idir nous dit salut à tous, c'est Karm qui dit ça. Johan, peut-il nous dire s'il était entraîneur de l'OM, comment l'OM doit jouer l'Atalanta? On en parlera dans quelques minutes, bien sûr. Et puis à 22h, l'After avec Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
Salut les gars, 2 heures de Ligue 1 comme tous les lundis évidemment. Stéphane Guy, Daniel Riolo seront là. On aura Grégory Lorenzi tout à l'heure avec nous, l'occasion de faire le point sur la suite évidemment des festivités à Brest.
Directeur sportif,
exactement. Le stade, le recrutement, le bilan de la saison qui est forcément bon. Et puis bilan parisien, forcément le titre. On en a pas parlé hier soir, puisque hier soir, bon bah il y avait le match de l'OM, il y avait le super match Rennes-Brest. Mais ce soir, on va prendre le temps quand même de mesurer ce titre en comparaison des précédents pour Paris. Et puis débat également concernant les places européennes, débat concernant le maintien et la sonorisation des arbitres. Bonne ou mauvaise idée? On en débattra tout à l'heure dans la fin, puisque ça a été annoncé aujourd'hui. L'année prochaine, on va, voilà. Vous voulez un soin, monsieur Armel?
Moi, j'aime bien.
La France sera le laboratoire du football européen.
Ouais. Voilà. Franchement, ça serait. Moi, je trouve que c'est une super idée.
Bah, nous, on va se régaler le soir dans l'after.
Ah, bah oui.
On aura en version originale les commentaires des invités.
Strictement à
bah si,
rien.
Si. Alimenter l'after, c'est très bien.
Oui, d'accord. Ok. Sur ça, ok.
Bah, à entendre comment les joueurs se comportent pas avec les arbitres.
Bah, ouais, c'est ça aussi.
Non,
parce que parfois
non, ça peut pas discipliner les joueurs. Mais maintenant que leur échange est connu.
Ah ça, éventuellement. Mais oui. Sur genre la connaissance pour le grand public, on le voit. Il y a des arbitres dans les émissions de foot partout, etc. Ils expliquent, des anciens arbitres qui expliquent, ou les arbitres à la fin des matchs, ça change rien. Si t'as pas envie d'être d'accord avec la décision de l'arbitre, tu seras pas plus d'accord parce que.
Ouais, mais l'arbitre, il a toutes les infos parce qu'il le vit en direct.
Et puis en France,
donc ça va aider à comprendre leur décision.
En France, on n'entend pas les arbitres après les matchs expliquer sur leur décision.
Moi, je les entends en Italie.
Oui, mais nous,
soit des arbitres, soit des ex-arbitres. Maintenant, on a même sur DAZN qui diffuse le foot, on a même une émission spéciale, une chronique spéciale où on diffuse les sonores des arbitres entre arbitre et VAR.
Ah ben en Espagne on l'a aussi depuis quelques semaines.
Mais ça sert à rien, il y a toujours autant de polémiques. Si t'as pas envie d'être d'accord, tu seras pas d'accord.
Ouais, mais là ça sera en direct. Là, on est d'accord que ça sera en direct, il y a pas de montage.
Ça sera en direct.
Ah non, ça sera en direct.
Parce que le problème c'est que
nous comme en rugby,
là aussi en Espagne on a la discussion entre le VAR et l'arbitre, mais qui te dit qu'il y a pas eu un montage fait par la Fédé avant? On sait jamais, alors que là, ça sera du direct.
Bon, ce sera un débat à partir de 22h dans l'after avec Gilbert. A tout à l'heure, Gilbert, pour l'after de 22h à minuit. C'est parti pour les drôles de dames. Polo, il y avait meilleure façon de préparer une demi-finale de Ligue des Champions pour le Borussia Dortmund, qui s'est fait étrier par Leipzig 4-1. C'est un peu le tarif quasi chaque week-end de Leipzig en ce moment. Est-ce que cette défaite raconte la forme du Borussia avant de recevoir Paris mercredi soir?
Je suis pas persuadé. La première des raisons, tu viens de le dire, c'est qu'en ce moment, le club saxon est inarrêtable. Il met des piles à tout le monde. Il est invaincu depuis la double rencontre contre le Real Madrid, par exemple. Et il met 3-4 pions à tout le monde. Donc, si tu veux, c'est un petit peu délicat. Ce qui est intéressant, c'est de voir la performance du Borussia Dortmund, qui nous a fait, en tout cas, du Borussia Dortmund durant les 20 premières minutes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en place. Ils commencent à perdre des ballons assez rapidement. On se dit que Leipzig va s'amuser avec. Et finalement, qui marque le premier but? Eh bien, c'est le Borussia Dortmund, et par un super but de Sancho. Et d'ailleurs, les premières véritables occasions, elles sont du côté du BVB et pas de côté de Leipzig. Et le problème, c'est que Dortmund n'a pas pu tenir face à la furia de Leipzig et s'en est pris 4. Mats Hummels s'est sorti à la 50e minute. Dès la première mi-temps, on a bien vu que Leipzig avait réussi à retourner la rencontre et le Borussia Dortmund n'avait pas réussi à résister. Il y a des prestations individuelles qui sont assez dramatiques. Nmetscha, évidemment, mais qui ne sera pas titulaire mercredi. Adeyemi, qui, comme je le disais ce week-end, était un peu le Leroy Sané du pauvre. C'est-à-dire qu'il a le même comportement que Leroy Sané, mais il a sûrement pas le talent de Leroy Sané. Donc, c'est plus un coureur de 100 mètres qu'un véritable joueur de football. Donc ça fait partie de ces joueurs qui sont arrivés d'Autriche et qu'on nous vend, qu'on nous survend, qui arrivent à être international allemand. Mais bon, sur la durée, ça commence à se voir. Il y a des choses comme ça qui font que c'est un petit peu compliqué en ce moment pour le Borussia Dortmund. Maintenant, le week-end dernier, ils étaient pas non plus génial contre Leverkusen et ils se prennent c'est eux qui mènent encore une fois 1-0 et ils se prennent l'égalisation durant les arrêts de jeu. Si on veut chercher des excuses du côté du Borussia Dortmund, c'est évidemment sur la composition de départ parce qu'il manquait beaucoup de personnes. Hein. Il y a au moins un tiers de l'équipe qui n'était pas là. Zabitzer a eu une infection cette semaine, donc il était sur le banc. Malen, il y a 99% de chance qu'il soit out mercredi. Emre Can et Maatsen étaient suspendus sur cette rencontre, donc évidemment on n'aura pas du tout la même équipe. Maintenant, il y a quelque chose qui me perturbe toujours avec le Borussia Dortmund, c'est que quand on regarde un peu la presse française, et j'essaye de faire le parallèle avec ce qui se dit en Allemagne, c'est que oui, c'est peut-être pas le plus flamboyant des demi-finalistes des dernières saisons ou de l'histoire de la Ligue des Champions, sauf que jusqu'à preuve du contraire, malgré le jeu, j'ai presque envie de dire pauvre et minimaliste mis par Edin Terzic, ils finissent quand même premier de leur groupe où il y a quand même le Milan, Newcastle et le PSG première version. Il y avait un quart de finale qui n'était pas évident contre l'Atleti, jusqu'à preuve du contraire, ils ont réussi à l'emporter lors du match retour et à se qualifier. Donc il y a peut-être quelques qualités quand même dans cette équipe, quoi qu'en disent certains médias français. Donc je peux comprendre que du côté de la presse française ou des Parisiens, on se dit c'est un bon tirage parce qu'évidemment, vu le jeu proposé par le Borussia Dortmund, encore une fois relativement pauvre et difficile à cerner parce que j'ai presque envie de dire le véritable adversaire de Dortmund, c'est pas Paris, le véritable adversaire de Dortmund, c'est le Borussia. On ne sait pas quel Borussia on va voir sur le terrain mercredi. Est-ce que ce sera celui de la première mi-temps contre l'Atleti? Est-ce que ce sera celui des 20 mi-temps d'après en début de seconde rencontre qui voyait rien, qui a pas vu le ballon? Je n'en sais rien. Donc c'est comme ça depuis un bout de temps. L'année dernière aussi, on pourrait rajouter ce qu'on avait raconté l'année dernière où ils étaient premiers du championnat mais avec beaucoup de chance, etc. Mais force est de constater qu'ils sont là. Et que à domicile, c'est une force de jouer au Westfalenstadion. Donc Paris est évidemment sur la double confrontation favori. De là à penser que je peux lire que ça va être une raclée tout ça, j'en sais rien. Quoi. Enfin, ça me semble. Ça me fait penser un peu à tous ces comment on appelle ça déjà, ceux qui font des paris là, les sites de paris sportifs qui mettaient le Bayern avec un coef à 5 quand on se rencontre à Arsenal. Quoi. Donc ça me fait un peu rigoler. Si t'es en demi-finale, c'est que t'as quelques qualités quand même. Maintenant, il faut voir pourquoi ça marche pas. C'est pas la première fois que le Borussia Dortmund se prend une raclée.
Oui, bon, en clair ici, ce qui se dit pour chez beaucoup de Parisiens, c'est que tu n'as pas le droit de pas passer le Borussia Dortmund en demi-finale avec des champions, quoi. En clair, c'est une opportunité énorme de jouer le Borussia en demi-finale. Ce que je peux comprendre maintenant, effectivement, la marge. Personne n'a parlé de raclée attendue non plus, mon cher Polo. Johan,
mais ça peut arriver. Hein.
Ça peut arriver, Johan.
Moi, évidemment, je souscris à ce que dit Polo. Si t'es en demi-finale, c'est que t'as des qualités. Tu peux l'expliquer par le parcours. Ça me fait penser un peu au club milanais l'année dernière où on disait oui, mais ils ont éliminé que Benfica et Porto d'un côté et de l'autre c'était Tottenham et Naples. Et donc t'as pas éliminé le Real, le Bayern, le Paris Saint-Germain, Manchester City, etc. Ce qui en soi est logique. Et si t'es en demi-finale, t'as des qualités. Tu l'as montré et quelque part tu le mérites, même si j'ai pas grande considération pour le terme mérite dans le football.
D'accord.
Néanmoins, moi j'ai vu pas mal de matchs de Dortmund, mine de rien, cette saison, en championnat, en Ligue des Champions aussi, Polo. Hein, souviens-toi les soirs de Dortmund-Milan, on était tous les deux à se dire on a vu un match d'une très faible qualité. J'en ai vu d'autres en Ligue des Champions puisque j'avais rattrapé les matchs contre le PSV. J'ai vu les deux matchs contre l'Atlético. Et effectivement, moi je trouve qu'il y a quand même des énormes carences dans cet effectif-là. Alors dans l'effectif ou dans ce qui est montré sur le terrain, peut-être plus simplement, je vois une grande faiblesse de manière générale dans cette équipe-là. Je suis pas impressionné par ce que je vois. Ça manque peut-être un peu de talent déjà, peut-être un peu aussi d'idées claires sur la stratégie en cours de match ou au début des matchs, même peut-être plus. Là où je les ai trouvés vraiment conquérants, intéressants, même si tu avais le sentiment que ça faisait partie de ces matchs-là où tu tires du parking, ça fait lucarne, c'est contre l'Atlético au retour. Où là, pour moi, ils ont été vraiment convaincus. C'est le vrai bon match que j'ai vu cette saison de Dortmund. Où là, ils les ont pris à la gorge. Ils ont été bons. Ils ont mis de l'agressivité. Ils ont mis tous les ingrédients que t'attends finalement de ce type de rencontre-là. Mais clairement, il y a beaucoup d'équipes allemandes que je mettrais au-dessus de Dortmund par rapport à ce qu'ils ont montré cette saison, rien qu'en Bundesliga déjà.
Bon, on fait une pause. Dans un instant, on prolonge sur ce duel entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Fred veut prendre la parole. On aura un invité également qui a joué pendant 10 ans le Borussia en Bundesliga. Reste avec nous, c'est Génération Affaires spéciale dans le Dame sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fred Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. On est ensemble jusqu'à 22h. On parlera, oui, il y a beaucoup de questions déjà sur l'Atalanta. Vous êtes pressé, supporter marseillais, d'avoir l'avis de Johan sur l'Atalanta fin de saison, qui fait une fin de saison exceptionnelle, avec beaucoup d'enjeux encore en championnat, en Coupe d'Italie et également en Ligue Europa. Vous restez avec nous, bien sûr, supporter marseillais. D'abord, le Borussia Dortmund qui reçoit le PSG mercredi soir. Ce sera sur RMC, bien sûr, avec notre invité qui a, évolué toujours. Toujours en Bundesliga, 10 saisons en Allemagne, que Polo connaît aussi, que les Bordelais connaissent aussi, je connais aussi, il a fait un passage aux Girondins, que Fred connaît aussi d'ailleurs, que tout le monde connaît, Joshua Guilavogui est avec nous dans Génération After. Salut Joshua.
Salut, bonsoir à tous.
Heureux de t'accueillir.
Et quel bonheur de reparler avec toi après tes années de l'Atlético, mon ami. C'est bien pour eux, ça fait un bon moment. Alors, je vais raconter une petite anecdote pour dire que Joshua était vraiment un joueur différent des autres. Je me souviens, il y avait eu un très gros match de Ligue des Champions. Je crois que c'était un classico, un derby madrilène. Et tu n'étais pas entré en jeu. Et j'avais dit, est-ce que je peux t'appeler juste derrière et tout. Et tu m'avais pris au téléphone, mais juste à la fin du match, quoi. Ce que, pour les journalistes, aucun joueur ne fait jamais. Ben voilà, Joshua, c'était comme ça. On pouvait vraiment très bien rare. Travailler avec lui. Donc, ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi.
Ah ben c'est une belle anecdote, tu vois, je m'en rappelais plus, mais ça veut dire que tu me dois un restaurant alors.
Eh ben quand tu veux.
Bon, moi je me souviens d'avoir vu un match de Ligue des Champions aussi, Real Wolfsburg, hein, et titulaire, hein, Joshua, on va pas forcément rappeler ça, mon cher Joshua. Tu vas souvenir
2-0, 3-0 au retour.
Oui, voilà.
3 buts de Cristiano Ronaldo, tu t'en souviens.
Voilà, la première Ligue des Champions de Monsieur Zidane.
Ouais, 2016.
Alors Joshua, on est heureux de t'avoir dans Génération After avec Drôle de Dame parce que tu connais bien ce Borussia Dortmund, tu joues à Mayence depuis cette saison, tu as joué pendant 9 saisons à Wolfsburg, bien sûr, tu es un franco-germano-guinéen, si on peut le définir comme ça. Comment tu vois ce rapport de force entre le Borussia et le PSG? Est-il déséquilibré comme certains le pensent ici en France? Est-il beaucoup plus imprévisible comme Polo le raconte ici ce soir?
Honnêtement, je pense que ça va être un match très 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 difficile. En plus, Dortmund, même si Dortmund a perdu ce week-end à Leipzig, ils sont en train de jeter toute leur force dans la Ligue des Champions et ça peut être historique parce que en 2013, lorsque Munich a gagné contre Dortmund, c'était aussi à Wembley. Donc ça peut être l'histoire qui se répète et ils ont l'un des meilleurs stades d'Europe et ils sont capables de gagner tous les matchs contre tous les adversaires. Donc ça va être un match très très compliqué, mais je vois quand même Paris gagnant, surtout que le match retour sera à Paris. Donc ils pourront pas répéter, on va dire, la même performance qu'ils ont fait contre l'Atlético de Madrid.
S'il y a un danger numéro un au Borussia, ce serait qui selon toi, Joshua? Sabitzer?
Oui. Je pense que c'est plutôt un collectif parce qu'ils ont un bon groupe et c'est un groupe aussi avec des qualités différentes. Il y a un Brandt qui ressemble un peu dans sa manière de jouer à Florian Wirtz, qui est un esprit libre, qui est très créatif. Ils ont de la vitesse aussi avec Adeyemi. Ils ont Savitzer qui est capable de frapper de loin. Et comme je dis, ça c'est un match qui va se jouer avec l'ambiance. Donc c'est à PSG de réussir à remonter ce début de match où il va avoir beaucoup d'intensité, où le mur jaune va faire beaucoup de bruit. Et ensuite, je pense qu'au fur et à mesure du temps, Paris va avoir beaucoup plus de la maîtrise de balle et ils pourront installer leur jeu.
C'est vrai, Polo, on n'a pas évoqué la dimension Westfalenstadion également. Quoi. Ouais. Oui, il y avait beaucoup de Parisiens à découvrir. Voilà, c'est ça.
Alors moi, je vois juste Joshua, je l'ai vu jouer à Geoffroy Guichard, mais ça
remonte
à plus de 10 ans d'ailleurs.
Mais c'est l'homme qui nous réunit tous quasiment ce soir.
Voilà. Et il y avait encore Zouma dans l'équipe. Il y avait encore Zouma dans l'équipe, donc tu vois, ça commence à remonter. Mais déjà, moi, je voudrais féliciter Joshua pour sa carrière en Bundesliga et à Wolfsburg, parce que c'est pas n'importe quoi de s'installer dans un club comme ça, même si Wolfsburg est habitué à nous faire un peu les montagnes russes chaque saison, mais c'est vraiment une très très belle équipe. La deuxième chose qui m'intéresse, c'est ce que dit Joshua sur le Borussia Dortmund. Moi, quand je dis que le premier adversaire du Borussia Dortmund, c'est le Borussia Dortmund, c'est que toute sa saison en Ligue des Champions, mais y compris en Bundesliga, on ne sait pas quel Borussia Dortmund on va voir sur le terrain lorsque l'arbitre va commencer à siffler le début de la rencontre. Et ça, moi, c'est quelque chose qui est très spécial. Je plus sois sur ce que vient de dire Joshua sur le fait que, sur la double confrontation, je pense que Paris est le favori, mais Paris ne doit pas, j'ai envie de dire, brûler le navire en disant on va l'emporter au Westfalenstadion. Il n'y a pas une équipe qui arrive à porté au Westfalenstadion depuis un certain nombre d'années. Donc, il sait qu'il y a quand même un peu de qualité dans cette équipe. Ensuite, Paris n'est jamais à l'abri d'une super but de Sancho, comme il l'a mis encore ce week-end, mais que d'un Adeyemi qui est très sur courant alternatif, qui te fait un contre et qui va sur 70 mètres aller marquer le but. Il y a tout ça qui est... Et puis, Julian Brandt, évidemment. Sabitzer, qui est en train de devenir le... comment on appelle ça en français, le tempo marreur, celui qui m'a... Le meneur de jeu, en
le
fait.
Baromètre,
Le baromètre un peu de cette équipe.
Marque le rythme,
voilà, on va dire comme ça. Et et tout ça fait que ça me semble beaucoup plus compliqué. Puis en plus, on est en demi-finale quand même. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vois, la finale est pas loin. Le Borussia Dortmund, il sait ce que c'est que lever la coupe aux grandes oreilles. Ils l'ont fait en 97. Ils ont été finalistes en 2013, etc. Donc, bon, il y a quand même un certain historique derrière.
Bon, raconte-nous ton expérience justement au Westfalen, Joshua. Est-ce que c'est forcément, ça prend aux tripes évidemment. Tu en as joué plusieurs des matchs hein, à Dortmund. Quand tu connais pas ça, tu peux être atteint émotionnellement ou galvanisé. C'est toujours la même question.
Oui, forcément, parce que c'est un stade qui est impressionnant, mais c'est un stade aussi, c'est différent de Munich, où Munich, ce sont plus des spectateurs. Donc, ce sont des gens qui viennent et qui attendent de voir le Bayern de Munich mener avec 2-3 buts d'écart. Alors que à Dortmund, c'est vraiment agressif. Ça fait penser un peu à Marseille ou un peu à Geoffroy Guichard, où on a des gens qui veulent venir voir du spectacle, mais un spectacle et ils veulent vivre ça. Donc quand on sort de ce match-là, même les supporters, ils sont émotionnellement et ils sont vidés, ils ont plus d'énergie. Et moi, ben, pour ma part, j'ai jamais gagné là-bas. J'ai fait deux matchs nuls. Mais par contre, c'est sûr que, comme on dit, de Dortmund est aussi son propre adversaire, parce que l'année dernière, justement, contre Mayence, tout le monde s'attendait à ce que Dortmund gagne et devient champion.
C'est vrai.
Et ils ont fait 2-2.
C'est vrai, ça.
Donc, il y a aussi peut-être ce petit traumatisme qui reste encore dans les esprits des joueurs de Dortmund, où ils savent que, OK, là, on a une grande chance, il faut savoir la saisir, mais, il y a quelques mois de cela, on n'a pas réussi à le faire. Donc, ça va être un match quand même assez compliqué pour les deux équipes.
Je suis, avant de te libérer, tiens, un mot sur toi, hein, à Mayence. Tu as peu joué cette saison, tu as 33 ans, tu en as encore sous la semelle. Il te reste un an de contrat en Bundesliga. Qu'est-ce que tu veux faire, toi?
Je pense que je vais voir. J'aurais pu choisir la facilité en restant à Wolfsburg et ensuite avoir un travail dans le club. Mais j'ai envie de me mettre un peu en danger, de découvrir autre chose après 10 saisons en Allemagne. Mon contrat est jusqu'à juin. Après, j'ai une option. On est en train de parler avec le club. Mais je vais voir. Je vais prendre le temps. Là, on est dans une situation un peu compliquée. J'espère qu'on va acquérir le maintien. Et ensuite, on va se poser autour d'une table. On va réfléchir.
Mais pourquoi pas un retour en Ligue 1, non?
Peut-être, pourquoi pas. Déjà, je souhaite que Saint-Etienne remonte. Déjà, je passe un grand bonjour à mon capitaine, mon éternel capitaine Luc Perrin, qui fait un super boulot, et ensuite on verra bien.
Tiens, un dernier mot aussi, parce que je disais que tu étais aussi occupé par ta fondation que tu diriges, qui vient en aide aux orphelins dans ton pays d'origine, la Guinée.
Exactement. Nous avons une fondation créée depuis 2019. Donc, c'est un orphelinat. Et actuellement, nous avons 23 enfants, 12 filles et 11 garçons qui sont soit orphelins des deux parents ou soit de père ou de mère. Et ils sont nourris, logés et scolarisés à l'école.
Voilà. Mais écoute, bravo, Joshua. C'est un plaisir de t'accueillir. Oui. Heureux d'entendre ta voix à nouveau. Et puis, n'hésite pas. Peut-être une carte de consultant aussi, hein, plus tard, peut-être pour toi, mon cher Joshua. Et en plus, je pense qu'il est content, Joshua, qu'on l'appelle Joshua et pas Joshua, comme beaucoup le font, tu vois.
Voilà. Et ça, c'est les Allemands qui m'appellent Joshua.
Joshua, bien sûr. Voilà. Merci, très bonne soirée à
merci
toi.
Beaucoup,
très vite
plaisir.
Sur RMC.
Très bien. Merci, passez une bonne soirée.
À bientôt. Ciao. Voilà, les gars, pour ce Borussia PSG. Polo, tu voulais ajouter quelque chose? Tiens, Mats Hummels, on nous demande également, sera-t-il remis? Il est sorti blessé ce week-end.
Apparemment, il sera apte. Et ce sera de toute façon un gros point d'interrogation parce que il était excellent, il est en train de redevenir tracteur en ce moment. Sinon, ce sera Zule évidemment qui jouera en défense centrale, mais apparemment il sera titulaire. Sabitzer devrait être là, Emre Can et Madsen vont revenir. Par contre, Malen, il y a 99,9% de chance qu'il sera même pas sur la feuille de match.
Faut-il avoir peur pour Ryerson qui a été catastrophique ce week-end, qui va se prendre Ousmane Dembélé mercredi soir?
Bah, déjà, il jouait à gauche, Ryerson, donc c'est pas son poste, hein. Et là, il va revenir à droite, parce que Madsen joue à gauche. Ryerson.
Il va prendre Mbappé, quoi.
Va prendre Mbappé.
Oh, bah, ça va.
On va voir. Ou Barcola.
Ou Barcola, exactement. Barcola, ouais.
Mais je voudrais juste rajouter une chose, c'est on oublie la double confrontation contre Newcastle aussi. Le Borussia Dortmund a une faculté de résilience qui est très énervante au passage, parce que on n'arrête pas de demander. On a dû discuter dans l'after 236 fois d'Edin Terzic, doit-il être encore avec le coach du Borussia Dortmund? Ça fait 18 mois qu'on se pose encore la question. Il n'est pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, mais il est en demi-finale de Ligue des Champions, et c'est ça toutes les semaines. Et moi, quand même, si on cherchait un match référence, ce serait pas celui contre l'Atleti. C'est lorsque le Borussia Dortmund l'a emporté à Newcastle avec un peu de chance, je pense. Que Newcastle méritait le match nul, mais sur la double confrontation, ils l'ont quand même remporté deux fois. Donc je pense qu'il y a des petites choses quand même à aller chercher. Paris doit être surtout pour moi très sérieux. C'est-à-dire, penser que c'est joué, je pense que c'est la pire des choses. Et il faut faire attention de ne pas craquer là-bas. C'est-à-dire que pour moi, je serais, tu vois, s'il y avait un 0-0 là-bas, je serais Paris, je serais super content, quoi.
Et je voulais simplement dire de ce que j'ai vu du Borussia face à l'Atlético. C'est en fait que Paris doit profiter des fringales, parce que par un certain moment, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu as le Borussia qui fait n'importe quoi.
Un temps faible, tout à fait.
Vraiment un temps, mais vraiment, c'est l'impression qu'ils sont plus là, quoi. Et donc, faut profiter de ce moment-là, quoi.
Voilà pour cet avant-match Borussia PSG. Vous serez là, Polo, Julien peut-être aussi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi pas Julien, pour l'inviter.
Je serai au match.
Il sera au match évidemment. Le mec, il trouve le moyen d'être Ligue des Champions quand il a pas de club anglais. C'est fantastique. Qu'est-ce que c'est?
Non, mais le PSG pour la télévision anglaise, c'est normal.
Bien sûr, t'es là.
Tout à fait.
Bon, Julien, d'ailleurs, je te laisse la parole car c'est l'heure de ta minute. On envoie la musique, Polo.
Je vais laisser un petit peu hein, parce que le début est quand même assez iconique. Et un peu plus fort. Pour ceux qui ont reconnu bien sûr les Kaiser Chiefs avec A Predict a Riot. Donc je prédis une révolution, on peut dire ça comme ça. Les Kaiser Chiefs qui viennent de Leeds, bien sûr, qui sont un groupe de rock anglais de Leeds, qui sont des grands grands fans de Leeds. La chanson est jouée d'ailleurs à Leeds, les supporters de Leeds chantent la chanson. Sauf que Leeds a pris 4-0 à Queen's Park Rangers vendredi soir, ce qui a automatiquement promu Leicester qui joue ce soir là dans quelques minutes, mais qui est déjà officiellement en première ligue la saison prochaine. Et un petit chambrage sympa comme on l'a fait nous la semaine dernière par exemple, quand on le fait quand un de nos clubs est éliminé, etc. Quand Leicester a annoncé donc sur les réseaux sociaux la montée en première ligue, quelle chanson ils ont mis? A Predict a Riot.
Magnifique.
Bien sûr, ça valait bien la peine, un petit peu de chambrage comme ça. Et donc c'est au son du groupe de rock le plus fan de Leeds United qu'ils ont fêté et célébré leur montée en première ligue.
Faut rappeler pourquoi ce groupe s'appelle Kaiser Chiefs aussi, Julien. Hein. C'était grâce à Lucas Radebe, c'est ça, hein.
Tout à fait,
joueur exactement. Capitaine du Leeds United.
Lui-même venait du club Kaiser d'Afrique, Chiefs, hein. D'Afrique.
Exactement. Voilà.
Tout à fait.
Bon, Leicester hein, qui va jouer ce soir donc pour l'honneur. Jimmy Vardy qui va retrouver la première ligue. Julien, faut aussi souligner ça, c'est important. Et, ouais. Il a eu des offres l'été dernier pour aller jouer en Arabie Saoudite. Il a essayé de rester à 36 ans.
Et il a bien aidé son club et Enzo Maresca que Yo connaît bien, que Fredo a aussi eu un petit peu à Séville en tant que joueur et en tant qu'entraîneur adjoint, qui a fait ses gammes avec Pep Guardiola à Manchester City et avant d'aller à Parme, ça s'est pas très bien passé. Et là, il fait une saison magnifique. Jamie Vardy qui a aidé avec quelques buts, lui, l'ancien, et une seule année en Championship pour Leicester qui remonte donc 10 ans après leur première remontée qu'ils avaient amené, bien sûr, aussi de champions, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, etc., etc. Et là, ils reviennent l'année prochaine avec quelques soucis financiers, un peu, bien sûr, quand même, puisqu'ils ont beaucoup dépensé, ils ont une masse salariale, je l'avais déjà dit, je crois, une des plus hautes en Europe, ce qui est hallucinant quand t'es en Championship, la 16e plus haute d'Europe. Donc il va falloir un petit peu gérer tout ça. Mais voilà, ils sont de retour avec un entraîneur encore une fois jeune, un très bon entraîneur qui fait partie de cette nouvelle vague d'entraîneurs dont on parle beaucoup dans tous nos pays. Donc c'est très très bien pour eux. Voilà. Et le même week-end où Sheffield United a été officiellement relégué en Championship, eux aussi après seulement un an en Première Ligue, c'est la montée de Leicester qui a aussi été fêtée.
Leicester avec trois joueurs passés par la Ligue 1, Woodfess, Mavididi et Ricardo Pereira, l'ancien niçois.
Tout à fait, Mavididi qui fait une très belle saison aussi.
Dans un instant, le Bayern Real surtout avec Fred et Polo, on va en parler bien sûr. Johan et Julien pourront s'inviter dans ce duel, un grand classique, un classico, nous dit Fred, nous dira pourquoi beaucoup de confrontations entre ces deux immenses clubs, 20 Ligues des Champions cumulées. On en parle dans un instant avec les Drôles de Dames sur RMC. À tout de suite.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas, avec les Drôles de Dames comme tous les lundis soirs RMC, merci d'être avec nous. Il est 20h34 avec Polo Breitner, Julien Laurent, Johan Crochet et Fred Hermel. On est ensemble jusqu'à 22h. Mon cher Fredo, on remarque sur le chat que tu as perdu du poids. Voilà.
Mais oui.
On te connaît, tu as des fans. T'as combien là?
J'ai perdu 6 kilos là en
6
deux
kilos
mois.
Bien, 6 kilos.
Mais c'est simple, je mange moins.
Voilà. Voilà. Bon, mais écoute.
Je bois moins aussi. Déjà, j'étais avec modération, mais là, c'est encore moins. Mais...
Bon.
Je marche beaucoup.
Tu marches beaucoup.
Ouais.
La marche
énergique, on va dire.
Alors, demain soir, les gars, on ouvre demi-finale de Ligue des Champions. Ça va courir, bien sûr. Le Real Madrid face au Bayern. Bayern Real, grand classique européen. On en parle avec vous, les Drôles de Dames. Tu disais tout à l'heure, tu posais la question, est-ce que ce Real n'est pas un peu trop confiant avant ce duel? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est ton sentiment? Est-ce que tu lis ça dans les déclats des Madrilènes?
Non, je pense que c'est plus l'atmosphère qu'il y a à Madrid autour de ça, en disant ça y est, on est en finale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont passé Los City, oui, et que le Bayern n'a pas dégagé cette saison, en tout cas vu d'Espagne, et une sérénité telle qu'on pouvait la connaître, il y a un sentiment, allez, ça y est, on est déjà en finale contre le PSG, quoi. Et ça, alors après, c'est tout le travail d'Ancelotti, de travailler avec ses joueurs et les joueurs, voilà. Mais même dans les déclarations des joueurs et tout, t'entendais Valverde qui dit qu'il a pas pris le penalty, le tir au but contre City tellement il était crevé, quoi. Donc ils s'attendent pas à deux matchs aussi durs contre le Bayern que ce qu'ils avaient eu contre City. Même si il y avait quand même quelque chose d'historique, et avec le Bayern, c'est vraiment la demi-finale de Ligue des Champions par excellence, quoi. C'est-à-dire, on a tous des souvenirs extraordinaires, quoi. Rappelez-vous le 4-0 d'Ancelotti, la décima, la fameuse décima en 2013, les 4-0 sur la pelouse du Bayern de Guardiola. Le fameux penalty manqué de Ramos, vous vous souvenez, qui restera l'un des souvenirs les pires de Mourinho. C'est en demi-finale et le Real ne va pas en finale à cause d'un pénalty au Ramos. Alors il y a plein de conneries qui ont été racontées après parce qu'on dit qu'il est toujours en orbite le ballon tellement il a tiré au-dessus de la transversale quoi. Donc c'est vraiment un match particulier. Mais moi ce que je crains c'est de dire voilà on a fait peut-être un petit peu le plus dur, même un exploit face à City. Et là il y a vraiment un boulot quand même de la part d'Ancelotti de rappeler l'importance de ce match et que le Bayern est aussi dangereux, voire plus dangereux que City. Voilà, donc.
Polo, t'es d'accord avec ça? Le Bayern, hein, c'est pas tout à fait le même qu'avant le quart de finale, notamment, quoi. On est sur 4 victoires consécutives en Bundesliga, dernière ce week-end.
4 victoires à la suite, il y a une qualification contre Arsenal, alors que tout le monde annonçait que le club munichois allait se faire sortir. Il y a surtout donc, le fait d'être revenu en demi-finale de Ligue des Champions, ça n'a l'air de rien, mais ça faisait 3 ans que le Bayern n'y était pas. Moi, je constate, malheureusement pour le jeu produit ces dernières saisons par le Bayern Munich, que c'est une équipe peut-être un peu plus solide, un peu plus cynique, qui récupère un paquet de ses joueurs là pour cette demi-finale, parce qu'apparemment Moussiala et Leroy Sané seront titulaires, alors que ces dernières semaines on jouait avec Thomas Tuchel et Choupo-Moting notamment.
Thomas Müller et
Choupo-Moting notamment. Je constate aussi, comme Fred l'a dit, que ce derby d'Europe, une fois de plus, est en demi-finale, parce que ces deux clubs monstrueux européens ne se sont jamais affrontés en finale de Ligue des Champions,
faut
pas l'oublier. Ouais. C'est un truc complètement fou. Et qu'à chaque fois, c'est super serré. C'est-à-dire qu'il y a le 4-0, évidemment, mais quand tu regardes l'histoire entre les deux confrontations, c'est pas une question de qui est le favori, pourquoi, comment. C'est que souvent, ça a été en prolongation, parfois, ça a même été au péno, etc. Et ça se joue à pas grand-chose. Sur la double confrontation, on peut considérer que le Real est favori parce que, justement, ils ont sorti Manchester City, qui était le favori de la compétition, mais c'est aussi peut-être un désavantage, c'est-à-dire que doit faire le Bayern? Le Bayern, ce week-end, il s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, donc on a sauvé le minimum syndical. Là, on rencontre le Real, si on se fait sortir par le Real, bon, ok, c'est l'histoire qui parle, pas grave. Mais pourquoi on ferait pas un exploit? Et en plus, une fois, il y a quand même un coach aussi, Thomas Tuchel, en fin de saison, qui ne sera plus là, qui, sur les derniers exercices en Ligue des Champions, a amené Paris en finale, l'a emporté avec Chelsea, et quand je dis ça, c'est avec une méthode très cynique, beaucoup moins engageante au niveau du jeu que Nagelsmann, par exemple. Mais est-ce que Arsenal a eu beaucoup, beaucoup d'occasions lors de la double confrontation? Je suis pas persuadé, avec les souvenirs que j'ai de la double rencontre. Voilà, il y a la dimension physique qui est très importante. Je constate que même les Anglais, dans certains papiers, ont trouvé que le Borussia Dortmund et le Bayern Munich avaient une densité physique qu'on n'avait peut-être plus l'habitude de voir ces dernières saisons, et notamment lorsqu'on parle de certains clubs anglais. Donc voilà, moi il y a des choses qui me semblent importantes. Et encore une fois, moi je sais pas, Real Bayern, je lance la pièce en haut et puis Arton où elle a envie quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Moi ça me dérange pas.
Mais c'est un peu le duel de la vieille aristocratie du football en fait, hein, face aux nouveaux riches. On est vraiment dans un esprit différent et eux-mêmes se sentent un petit peu à part par rapport à d'autres clubs. La dimension physique est importante. Alors il faut expliquer quand même que le Real ce week-end ont pu faire tourner, mais ils ont gagné à Saint-Sébastien. On en a parlé vendredi soir, mais avec l'équipe BBB, c'est-à-dire avec des remplaçants. C'est-à-dire que il y a un voire deux joueurs qui étaient titulaires ce vendredi, qui risquent d'être titulaires demain. Donc c'est dire que là, ça fait un vrai repos pour les joueurs du Bayern, du Real, qui ont quand même beaucoup souffert physiquement contre City. Tout à l'heure, Sofiane nous posait la question du 11 contre le Real. C'est quasiment sûr. Il n'y a qu'un vrai doute. Est-ce qu'Ancelotti va mettre Nacho en défense centrale, qui a été exceptionnel contre City au match retour, ou mettre
Tchouaméni?
Voilà, c'est le seul doute, parce que pour le reste, bon, alors il y a Lucas Vázquez qui va jouer à la place de Cavaral, parce que Cavaral est suspendu, mais Lucas Vázquez qui était exceptionnel, notamment contre le Barça lors du Classico, un participant aux 3 buts de la victoire. Donc voilà, franchement, là, et puis il y a le côté, là aussi, c'est un match contre le Bayern, donc là, il y a tout ce qu'il y a, la dimension de, qu'on appelle ça, j'ai plus le mot en français, vous savez, quand on croit à des trucs, les talismans, etc. Superstition. C'est-à-dire que comme à City, ils avaient emmené un gamin d'origine de Porto Rico qui s'appelle Jérémy De León, qui joue comme attaquant au Castilla, qu'il avait emmené pour notamment pour les entraînements la veille du match, etc. Et que comme ils ont gagné à City, enfin comme ils se sont qualifiés à City,
d'accord,
ils l'ont ramené dans l'avion
Munich.
Alors qu'il devrait jamais être là, ils l'ont mis dans l'avion là. Non. Il y a ce côté là très 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 superstitieux de qui font qu'on sent les grands matchs. Après, on attend toujours depuis le début de l'année 2024 le grand match de Bellingham. Il n'est pas vraiment venu contre City, donc on l'attend là maintenant. Il n'est pas vraiment venu, même s'il a marqué le but de la victoire contre le Barça. Il fait pas un grand match. Donc il y a ça. Donc j'ai très très envie de voir cette demi-finale. Et je vais vous dire, pour moi, elle m'excite encore plus que le quart de finale contre City, parce qu'il y a un petit côté vintage,
il y a une dimension historique encyclopédique
qui fait, je vais vous dire pour beaucoup de supporters du Real, perdre contre City de Guardiola, c'est insupportable. Tu perds contre le Bayern, c'est chiant, mais c'est pas si grave.
Bon, on parlera d'Harry Kane également plus tard. Peut-être lundi prochain, on verra le match aller. Lui qui court après un premier titre dans sa carrière et qui veut prolonger cet espoir cette saison. En revanche, mon cher Polo, on voulait pas Clément Turpin. C'est lui qui sera l'arbitre de ce match entre le Bayern et le Real. C'est un très mauvais souvenir pour le Bayern. T'as Uli Hoeneß qui a rué dans les brancards, qui a dit qu'il aura quand même du mal à faire pire que la dernière fois. La dernière fois, c'est le 19 avril dernier 2023.
Il y a ça. Et contre City. Il y a quand même aussi, ne l'oublions pas, enfin cette semaine, l'interview d'Uli Hoeneß, que je pense que le club munichois n'est pas un club comme les autres, parce qu'il y a les Elephanten qui sont toujours là, ceux qui sont au board. Uli Hoeneß a fait une interview fracassante dans la FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, où il a juste tranquillement égratigné, je vais dire ça d'une façon diplomatique, son actuel coach Thomas Tuchel, en lui faisant comprendre que finalement Thomas Tuchel n'est pas un coach pour développer des jeunes joueurs comme Davis, comme Pavlovic ou d'autres. Il dit, lui, tout ce que sait faire Thomas Tuchel, c'est lorsque ça ne va pas, il faut acheter un nouveau joueur. Ce qui au passage n'est pas complètement faux quand tu vois l'évolution de Thomas Tuchel et de certaines de ses déclarations il y a quelques années où il se considérait plus comme coach formateur. Il a été blessé, Thomas Tuchel, il a répondu, faisant comprendre que c'était un peu scandaleux d'entendre ce genre de choses, etc. Et qu'il se sentait blessé en tant que coach, pas dans sa fierté la plus profonde. Et c'est aussi l'ambiance du Bayern Munich, c'est-à-dire qu'une demi-finale de Ligue des Champions où beaucoup de personnes auraient tendance à dire si la ne s'aime pas, voilà, c'est important. Le match est là. Au Bayern, c'est différent. Il y a le vieux, 72 ans, Uli Hoeneß, qui met une cartouche à son entraîneur juste avant. Donc, moi,
il est placide de Pastorel, avec toutes les critiques qu'il prend. Il se fait tancer chaque semaine quasiment par la direction. Oui. Il est là en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Exactement. Pour ce Bayern Real. Mercredi soir sera sur RMC, mardi soir sera sur RMC, bien sûr, dès demain, 20h, l'avant-match. La minute, la deuxième de la soirée, elle est italienne. On envoie la musique, Polo.
Ero zenotti, macchina calda, e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta.
Gigabue, j'ai déjà mis d'autres chansons de lui, j'adore. Grand tifoso de l'Inter, Certe notti, la chanson. Donc pour rendre hommage au titre de l'Inter, j'ai choisi un chanteur interiste qui était dans la Gazzetta dello Sport il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, pour exprimer son amour de l'Inter. Et on va parler de Sassuolo, ça se passe pas bien. Pris 5 buts à Florence hier soir, après une défaite 3-0 à Lecce à domicile. Et surtout le club qui file tout droit vers la Serie B. On n'imaginait pas trop ça parce que c'est un club qui nous avait habitués à nous surprendre un petit peu, à finir entre 8 et 12 de manière très régulière. Et puis, ils sont allés un peu trop au bout, à l'extrême d'un système qui remplit les caisses, mais qui paupérise un peu l'effectif. Et le problème, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, tu as vraiment rempli les caisses pour le coup avec les Scamacca, Raspadori, Boga. Ils ont perdu aussi Djuricic, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Et derrière, quand tu ne remplaces pas bien, quand tu investis moins, quand tu rates ton recrutement, tu as une saison de galère. Ils sont en plein dedans. En plus, Berardi, qui est vraiment le joueur majeur de cette équipe-là, a eu quasiment des blessures toute la saison. Il a très, très peu joué cette saison, alors que c'est un joueur vraiment majeur même de Serie A, pour le coup, qui n'a rien à faire à Sassuolo en temps normal, si ce n'est son amour pour le club. On va retrouver sans doute cette équipe-là, qui était un peu un modèle de développement pour beaucoup. Pas seulement en Italie, d'ailleurs, mais on le regarde un peu comme un modèle partout en Europe. Pour les clubs de cette stature-là, on va le retrouver en Serie B, mais ils auront en tout cas toutes les les ressources pour remonter rapidement, pour remonter un projet. Ça, je me fais pas de soucis. Ils ont la Mapei derrière, qui est quand même très très grosse entreprise italienne, avec la famille Squinzi qui perdure malgré le décès de Giorgio il y a plusieurs saisons. Donc c'est peut-être qu'un au revoir de quelques mois, mais c'est en tout cas une très mauvaise saison de Sassuolo.
Suivant la trajectoire également de Maxime Lopez, prêté par Sassuolo à la Fiorentina, ouais. Savoir s'il va revenir à Sassuolo.
Bah, s'il revient, il ne sera pas pour aller en Serie B.
Sans Serie B, mais non. Donc voilà, peut-être en Ligue 1, une idée pour les clubs français qui peuvent nous écouter également, parce qu'il avait marqué de son passage, hein, Sassuolo.
Et puis avec De Zerbi, ça se passait très 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 bien avec De Zerbi et Locatelli. C'était une très belle parenthèse de la carrière de Maxime.
Pause. Dans un instant, Arsenal peut-il vraiment encore croire au titre? On va en parler avec Julien Laurence, toujours un point d'avance sur cette team et qui compte un match en moins. D'abord, un détour par la Ligue 2. C'est parti entre Dunkerque et Auxerre. Bonsoir, Jean Baumel.
Bonsoir, mon cher Nico. Bonsoir, les drôles de dames. C'est parti depuis deux minutes. Salut, ça te concerne beaucoup, Johan.
Il n'y a pas la licence ce soir, alors. Dunkerque, c'est.
Non.
Qu'est-ce qu'il y a, là?
Non, faut qu'il fasse.
Le dessin dauphin. Donc, ou alors faudrait faire le pirate Jean Bar, mais tu vois.
Ou l'arrivée du bateau marchand au port de Dunkerque, quoi, un truc comme ça.
Oui. Bah écoute, surtout là, l'objectif des deux équipes n'est pas le même. C'est de se maintenir côté Dunkerquois. 4 points d'avance sur le premier barragiste. Bon, il y a un joker. Ouais, je pense que ça va le faire. Hein. Ils ont fait une série quand même assez incroyable de 10 matchs avec 8 victoires en début d'année et de nuls. Alors qu'on pensait qu'ils étaient totalement condamnés comme Valenciennes, les Dunkerquois. Et puis pour la JOCR, c'est de prendre de l'avance pour la montée en Ligue 1, puisque au classement, hein, ils ont 4 points d'avance sur 3. Et pour en avoir 7, hein, ce serait pas acquis ce soir. Et en tout cas, ce serait de bon augure pour l'équipe de Christophe Pélissier de s'imposer à Dunkerque qui pour l'instant un peu plus le ballon, mais il n'y a pas eu la moindre occasion. Ça se taquine un petit peu au ballon. Mais rien d'extraordinaire pour l'instant. 3 minutes 30, 0-0.
Dans un instant, Arsenal et puis le départ annoncé de Thiago Silva de Chelsea avec les drôles de dames et Julien Laurence. Reste avec nous, c'est RMC 20h48. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Spécial drôle de dames, comme tous les lundis soirs sur RMC, avec Fred Armel, Paulo Breitner, Johan Crochet et Julien Laurence. Rapide point d'un Dunkerque-Auxerre. Mon cher Gibaud.
Ouais, ça commence à bien pousser de la part des joueurs de la JOCR et Dunkerque qui se dégage comme il peut avec un ballon là balancé très très loin de la part de Yon Bilingui. On est à la 6e minute de jeu et le favori du match pour l'instant continue à tenter les assauts. 0-0 pour l'instant.
Arsenal est donc toujours leader de Première Ligue, Julien. Mais combien de temps, c'est la question. Victoire fébrile 3-2 à Tottenham, mais qui maintient l'avance d'un point sur City qui doit jouer un match en retard justement à Tottenham le 14 mai. Est-ce qu'on n'a pas peur, Arsenal, de se diriger vers un scénario 2022-2023? Être en tête, City qui a des matchs en retard et qui finit par les valider, ces matchs, et être champion?
Alors, ce serait très différent de la saison dernière, quand même, où ils se sont écroulés lors des 10 dernières journées, où ils ont gagné que 7 points, je crois, sur les 9 derniers matchs. Donc, 7 sur 27, ça fait quand même pas beaucoup. Alors que là, même si, effectivement, tu pourrais finir la saison avec 89 points et pas être champion, ce qui c'est assez incroyable, alors ce qui serait pas encore tout à fait... Ce qui est arrivé à Liverpool où ils n'étaient pas champions avec 97 points, 89 points sur une saison quand même, ce serait magnifique. Tu serais juste battu par la meilleure équipe de l'histoire de la Première Ligue et peut-être l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de l'histoire du championnat anglais, toute génération et époque confondue. Donc ce serait difficile à avaler, bien sûr, parce que tu as été très bon toute la saison. Tu as peut-être été d'ailleurs la meilleure équipe toute la saison, malgré tes 5 défaites contre 3 simplement pour l'instant à City. Mais c'est aussi possible, effectivement, que tu sois pas champion. Pour l'instant, en tout cas, ta course au titre, ou tes espoirs, tes rêves, tes ambitions, tout ce que tu veux, dure plus longtemps que la saison dernière. Déjà, c'est déjà ça. Après, effectivement, il leur reste 3 matchs. 2 à domicile, contre Bournemouth et Everton. 1 à l'extérieur à Manchester United. Contre 4 à City, tu l'as dit. Ils auront 2 matchs à l'extérieur, dont celui à Tottenham, qui semble, en tout cas, sur le papier, le plus compliqué peut-être à gérer pour City. Mais qui n'a plus de la Ligue des Champions, on en a déjà assez parlé, qui reste la finale de Coupe d'Angleterre à la fin de la saison, et donc que ce championnat sur lequel se focaliser. On a vu une équipe de City faire le job contre Forest hier, gagner 2-0, sans être flamboyant, sans être bon d'ailleurs, tout simplement, en ayant un peu de réussite défensivement, en marquant 2 buts, dont celui d'Erling Haaland, entré en jeu et qui marque sur sa 2e touche de balle. Voilà, il n'y avait pas de Phil Foden, il y avait une équipe qui semble un petit peu fatiguée, mais qui est toujours là et qui a son destin en main. Parce que même si Guardiola nous a habitué cette saison à dire celui qui est premier au championnat, c'est lui le favori. Si City gagne tous ses matchs, ils seront champions. Pour Arsenal, ce match à Tottenham hier, dans le derby, dans cette ambiance extraordinaire, ressemblait aussi à une peau de banane un petit peu. C'était là où ils pouvaient perdre des points. Ils ont gagné, ils ont mené 3-0 à la pause après une première période exceptionnelle d'efficacité, notamment sur coup de pied arrêté et en transition offensive, ce qu'ils savent très bien faire. D'ailleurs, cette équipe d'Arsenal, là où elle est très forte cette saison, c'est qu'elle sait à chaque fois exploiter les défaillances adverses, on va dire, les petits points faibles adverses. On parlait tout à l'heure des temps faibles de Dortmund qui ne savent pas bien gérer. Eux, Arsenal, ils savent très bien gérer leurs temps forts et leurs temps faibles. Même si ces derniers temps, ils ont un peu l'habitude de faire des grosses erreurs qui donnent des buts à l'adversaire. On l'a vu hier à Tottenham, deux erreurs qui donnent deux buts. On l'a vu contre le Bayern de Polo, on l'a vu contre Aston Villa aussi en championnat. Mais c'est vrai qu'ils ont cette incroyable capacité à exploiter les défaillances adverses qui, moi, je trouve ça fantastique à voir, vraiment. Même si ça a été un petit peu chaud en fin de match, parce que Tottenham revient à 3-2 à la 85e minute, il pousse un petit peu après. Mais au final, c'est une très belle victoire pour Arsenal qui compte beaucoup, qui pourrait compter encore plus si, bien sûr, ils sont champions.
Ouais, tu l'as dit, Arsenal qui va recevoir Bournemouth, déplacement à United, réception d'Everton pour boucler ce championnat exceptionnel des Gunners. Un mot quand même, Julien Gamond, Thiago Silva, qui a publié une annonce vidéo aujourd'hui pour dire qu'à 39 ans, il quittait Chelsea, hein, il était en fin de contrat, 4 saisons, 151 matchs. Est-ce que ça émeut en Angleterre? Je rappelle, hein, c'est aussi une victoire avec des champions, hein, pas de titre en Angleterre. Est-ce que ça émeut ou pas, son départ?
Ouais, beaucoup. Ouais, beaucoup aujourd'hui. On s'y attendait. Il était en fin de contrat déjà. Et même lui, il le rappelait dans sa petite vidéo que le club et que lui-même ont posté sur les réseaux sociaux aujourd'hui en disant j'étais venu pour un an. C'est vrai, il était venu parce que Tourelle était là, parce que il voulait rester au PSG, ils n'avaient pas voulu le garder, qu'il voulait encore rester un petit peu en Europe pour jouer encore un peu de Ligue des Champions, pour pourquoi pas la gagner un jour. C'était quand même son rêve absolu, ce qu'il n'avait pas pu faire au PSG. Et puis la saison s'est transformée en 4 saisons. Ça n'a pas toujours été formidable pour lui. Bien sûr, il y a l'extase de cette finale de Ligue des Champions, où d'ailleurs il se blesse après 40 minutes de jeu, il est remplacé par Christensen, mais au final il est quand même champion d'Europe. Après, ça a été parfois plus compliqué, il a connu beaucoup d'entraîneurs, il a connu des bas, peut-être même plus que des hauts. Mais au final, il a aimé cette ville, il a aimé ce club, ses supporters, la famille aussi, c'était très bien adapté. Maintenant, il est temps à 39 ans de retourner au Brésil, de peut-être avoir une dernière pige à Fluminense. Et puis voilà, il aura bouclé la boucle. Mais je trouve que à 36 ans, il avait été courageux de venir en Angleterre parce que c'était pas facile qu'il s'y impose. Alors, il s'y imposait dans une défense à 3. Je pense qu'à 4, ça aurait été plus compliqué, mais à 3, ça a très bien marché pour lui. Et puis voilà, je trouve que c'est beau à cet âge-là de te lancer un dernier défi comme ça, d'aller dans un championnat que tu connais pas, une langue que tu connais pas, un football qui est complètement différent de tout ce que t'as connu avant au Brésil, en Italie et en France.
Enfin, t'as de l'affection pour lui, Julien.
Ouais, mais moi c'était mon. On était très proches quand RMC avait les droits de la Première Ligue, on se voyait souvent. Sa femme et ses enfants aussi étaient souvent à Stamford Bridge. Voilà, on se parlait beaucoup. Et moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Quelqu'un à qui tu pourrais parler après les matchs. Tout à l'heure, on parlait de Guilavogui et de Fredo. Thiago Silva, il fallait l'attendre longtemps, hein. Parce que la douche c'était long, les cheveux c'était long, la crème pour la peau c'était long, tout était très long.
J'en ai connu des comme ça. Ça serait rigolo de raconter quel est le plus long. Moi j'en ai un. Le plus long d'histoire.
Moi, Thiago, c'était imbattable.
Ah ouais, Thiago, imbattable.
Il sentait bon, hein. Il sentait tellement bon. Je l'attendais dans le froid.
De lui faire un
hug. Il sentait bon. Mais on faisait petit câlin toujours au début à la fin. Mais il sentait tellement bon, c'était magnifique à voir.
En Espagne, le pire, en tout cas en Real, c'est la Raoul. Mais Raoul, il sortait mais 3 heures après tout le monde.
Ah bon?
Alors quand t'avais rendez-vous pour l'interview, mais c'était.
Non, après il y a ceux qui le font aussi pour être le dernier à passer.
Mais lui traînait beaucoup.
Ceux qui aiment se faire attendre, tu vois.
Ouais, N'Golo, c'est souvent ça. N'Golo Kanté, en espérant que tu t'en ailles avant lui.
Oui, c'est ça. Oui, bon, pas
voilà, mais il était là gentiment. C'était de la gentillesse absolue avec Kanté. Mais voilà, il espérait que tu sois parti avant lui.
Bon, t'avais aussi la méthode Viltord qui lui passait assez rapidement, mais avec le téléphone scotché à l'oreille. Sans appel en cours, quoi. C'était magnifique.
J'ai même vu un joueur.
C'est pas Thomas Müller qui avait fait semblant que sur un téléphone, en fait, c'est son passeport.
Ouais, tout à fait.
L'humour Thomas Müller. Ouais. Bon, voilà pour Arsenal et pour Thiago Silva. Dans un instant, on parle de l'Olympique de Marseille, Atalanta, jeudi soir, Ligue Europa, demi-finale. Et Johan veut en profiter pour rendre hommage au travail de Gianpiero Gasperini. Reste avec nous. Les Drôles de Dames sont sur RMC 0-0, toujours entre Dunkerque et la JECR. Dans un instant, on lance également le match entre le Barça et Valence dans un Montjuïc étonnamment désert. Reste avec nous. RMC, les Drôles de Dames reviennent dans un instant.
Génération After.
RMC.
Le seul truc qu'on voit vraiment de palpable et qui est palpable visuellement, enfin, ça veut rien dire ce que j'y mets.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je devais pas être agent.
Il faut pas attendre.
Ils ont eu un petit peu de réussite. De toute façon, la réussite qui les a fuyés cette saison, ils l'ont eu là ce soir.
Ils ont fait un virage à 380 degrés et à 360 degrés plutôt. Montréal, bon, c'est comme à Vegas, c'est toujours un peu plus.
Voir à 180.
Hein. Ouais, voir à 180.
180, c'est bien.
180, 360, enfin bref.
360,
ouais, c'est du retour. Ouais, ouais, ouais.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Julien Laurence, qui nous a pas fuyé, Johan Crochet également, Fred Armel et Polo Breitner, qui est à jeun ce soir, comme il est depuis très très longtemps déjà, mon cher Polo.
Exactement. Mais on a tous, à cause du foot, on fait tous des erreurs, des fautes par rapport à nos pays d'origine, par rapport aux mots qu'on utilise.
C'est notre langue, ouais.
Oui, c'est ça. Parce que notre langue de foot, moi, ma langue du foot, c'est l'espagnol. C'est-à-dire, les mots même quand je suis en France, je regarde un match espagnol, les mots réflexes, c'est des mots espagnols.
Tu rêves en anglais ou pas, Julien?
Ouais, maintenant uniquement quasiment.
Incroyable.
Mais les Anglais m'avaient dit quand j'étais arrivé que le jour où tu rêverais en anglais, ce serait le jour où vraiment tu te sentirais bien, tu serais installé, ouais. Et que même la langue te viendrait plus facilement. Et ça s'est passé exactement comme ça. Je sais pas si pour Fredo c'est pareil, pour Polo aussi, mais et Johan, mais
ouais, je rêve. Moi, je rêve encore en espagnol. Ça m'arrive. Et en fait, il y a un truc que j'apprends quelque chose. Je reçois une information, je suis incapable de dire aujourd'hui si elle m'est venue en espagnol ou en français. Parce que je regarde sur Twitter un truc. En fait, c'est tellement encore en moi, même si j'ai l'Espagne, que peu importe, en fait. Et c'est vrai que le rêve, ça. Et il y a un truc aussi, par exemple, quand je me fais mal, je dis toujours Roder, quoi. J'ai encore,
comme
le pied, le genou, je sais pas quoi, j'ai le mot espagnol qui vient.
Roder. Polo, tu rêves, toi, ou pas?
Non, mais ce que dit Julien est véridique. À l'époque où je vivais en Allemagne, au bout d'un moment, tu te mets à penser dans la langue locale, c'est tout ça, donc ça fait partie de la logique, ouais. Si RMC avait la bonne idée de vous renvoyer là-bas, ce serait bien aussi.
Mais évidemment, tu y vas et tu seras payé pareil, y a aucun problème, hein. Pour un chat français, ça sera très bien. Bah oui, mais quand tu veux, Polo. On en parle.
C'est pas cher, Munich.
Rapidement.
Munich, j'irai pas Munich.
Très rapidement, le but de Dunkerque, Jean Baumet.
Oui, contre le cours du jeu, 20e minute, un ballon crochet. Profondeur. Il y va à grande vitesse, c'est Guessim Yassine. Et il ajuste le gardien de la GIA de Novan Leon. Et ça fait 1-0. Vraiment contre le cours du jeu. Il y a eu deux grosses occasions juste avant pour Perrin. Et Oneiu qui est rentré, puisque, eh bien, malheureusement, Florian Haillet est sorti sur blessure, touche a priori au jeu. Nous. Et ouais, ça va démarrer pas très bien pour la JOCR pour l'instant, qui malheureusement pour eux faisait un très bon match, mais là voilà, contre assassin entre guillemets, et Dunkerque 0 sur sa pelouse de Marcel Tribu à la 20e minute.
Avant de parler d'Atalanta Bergame, adversaire de Marseille jeudi en demi-finale de Ligue Europa, demi-finale aller, juste ce message pour vous dire, et j'espère que vous avez bien lu vos mails, les drôles de dames, vous ne serez pas là lundi prochain à 20h, mais dimanche soir de cette semaine à 20h. Pourquoi? Parce qu'il y aura un match de Ligue 1 lundi soir, Lille-Lyon, et qu'on ne joue pas le 5 mai en France désormais, à cause du drame de Furiani, vous le savez, journée dommage pour cette événement. Donc ce sera dimanche soir, 20h, notez-le bien, les drôles de dames seront là. Johan l'a appris tout à l'heure, il aurait préféré venir lundi soir, mon cher Johan. Polo, Julien, c'est noté, c'est bon? Dispo?
Je ne savais pas non plus.
Bah voilà. Que... Mais il faut lire les mails.
On l'apprend.
Mais il faut lire les mails de Jean-Thomas. Je suis le seul à avoir lu.
Et voilà, t'es un bon élève. En tout cas, maintenant, vous n'aurez pas d'excuses, messieurs, mesdames. Jeudi soir, demi-finale, allez, Ligue Europa. Donc, l'Atalanta Bergame au Vélodrome. Deux équipes qui ont gagné ce week-end. D'ailleurs, Johan, l'OM prend une Atalanta qui est à son sommet en cette fin de saison. Ça tombe bien. Elle va être passionnante pour les Bergamasco.
Ski. Exactement.
Mais... C'est un joueur, ça.
Non, c'est singulier. c'est une très belle fin de saison parce que ils sont à la lutte pour la Ligue des Champions, une qualification directe en Ligue des Champions en championnat. Ils sont pas loin de la Roma et en plus ils ont un match en moins, donc ils peuvent passer devant la Roma avec ce match en moins qui aura lieu d'ailleurs sans doute après la fin du championnat, puisqu'il n'y a pas d'autres dates disponibles. Ils sont en finale de Coupe d'Italie. Et ils sont évidemment en demi-finale de Ligue Europa. Et c'est une fin de saison très excitante. Souvenez-vous, il y a, je sais pas, 3-4 mois, j'avais fait un avis. J'ai envie que Gasperini gagne un trophée pour que ça valide un peu tout le travail qu'il a fait à l'Atalanta. Parce qu'on lui dit souvent, ouais, c'est super ton travail, mais t'as rien gagné. Parce que c'est souvent encore ce qu'on entend en Italie, malheureusement. Hein, la culture footballistique a du mal à se moderniser encore dans pas mal d'endroits en Italie. Et là, ce week-end, bon, c'est pas trop sur ce week-end qu'il faut regarder, parce que le match contre Empoli était assez simple, même s'ils ont fait beaucoup tourner l'effectif et que la victoire, elle était attendue, et c'est ce qui a lieu. Mais c'est surtout le travail de Gasperini, il se voit beaucoup cette saison, Parce que la saison dernière, c'était un petit peu plus difficile. Le recrutement, j'avais pas été fan. Je crois qu'il y avait beaucoup de joueurs, puissants, dynamiques, mais ça manquait de créativité, ça manquait de talent, hein, technique, ça manquait d'imprévisibilité aussi dans le jeu. Ce qu'amenait finalement à la grande époque Atalanta, les Papu Gomez, les Josip Pilicic, cette dose de créativité qu'ils avaient totalement perdue. Et De Ketelaere, là-dessus, a beaucoup apporté, avec en plus la nouvelle dimension prise par Kopmeiners au milieu de terrain, qui est énorme, en train de devenir un milieu de terrain total. Lui qui était très bon dans la gestion du ballon aux Pays-Bas, parce que de formation évidemment, et en plus il pouvait jouer défenseur central, il avait dépanné plusieurs fois aux Pays-Bas, il jouait milieu de terrain devant la défense. Maintenant il joue 8, il joue 10, donc il est en train de devenir un milieu de terrain exceptionnel, et ça c'est le travail de Gasperini. Et on a toujours ce style de jeu qui continue, qui perdure malgré des pertes de joueurs au fur et à mesure des saisons, parce que l'Atalanta, son modèle, c'est de développer des joueurs et au fur et à mesure d'en vendre quelques-uns. Hein. Julien Laurence nous en a pris un il n'y a pas si longtemps que ça, Christian Romero notamment.
C'est bonne guerre.
Ouais, Amad Diallo, c'est moins une réussite pour le moment, mais en tout cas, Romero à Tottenham a réussi à avoir un statut maintenant de titulaire en première ligue, et c'est vraiment un joueur très intéressant. Donc, à quoi s'attendre pour les supporters de l'OM? Bah, évidemment, le style, on le connaît, hein, le marquage individuel qui n'est plus tout terrain comme au début de l'ère Gasperini, qui est plus par zone maintenant, parce qu'il s'est rendu compte aussi que le tout terrain, plus le niveau s'élevait, plus ça devenait un petit peu difficile, parce que dès qu'un joueur est passé, finalement, vous avez tout de suite un décalage qui est créé, ensuite une compensation crée un nouvel espace, qui crée un nouvel espace, et ça devient un petit peu plus compliqué.
C'est l'individuel en zone, quoi.
C'est une individuelle sur des zones précises du terrain. Donc c'est pas de la zone, mais c'est vraiment être dans l'anticipation et être au marquage individuel. Mais au tout début de l'ère Gasperini à Naples, vous aviez un Toloi qui pouvait se retrouver au point de corner à 90 mètres de son propre but pour suivre son attaquant. Ça, on le voit plus maintenant. Il lâche le joueur quand le joueur le nécessite. Ouais. Exactement. Il y a toujours cette agressivité sans ballon. Ça, c'est clair. C'est une marque de fabrique de Gasperini. Le volume de course et le dynamisme avec et sans ballon. À la récupération, il y a beaucoup de joueurs qui se projettent. Je parlais de Kopmeiners, mais les joueurs de devant, Scamacca peut venir face au jeu pour aider à la circulation de balles, mais il peut aussi prendre la profondeur, parce que mine de rien, c'est un attaquant qui est relativement complet, qui va assez vite, qui est bon techniquement, qui a des coups de classe. Il y a à peu près un mois, je disais, sans les comparer absolument la carrière, mais je disais qu'il avait des coups à la Zlatan. Et on l'a encore vu en championnat quand.
Comment? But en Coupe d'Italie aussi, non? Le but en Coupe d'Italie, il est magnifique.
Bah bien sûr, mais la volée, ciseau.
Le ciseau, ouais,
mais on a aussi vu une frappe qui a été en pleine lucarne, sans aucun élan. C'est-à-dire qu'il a une force de frappe comme avec Zlatan. Dans les airs, il est capable de monter très haut. Il est capable de monter son pied également très haut. Donc
on est certain, il sera là jeudi soir.
Oui, il s'est entraîné normalement. Alors, d'accord. Sauf s'il y a un problème d'ici là, mais là, il était préservé ce dimanche comme d'autres joueurs. Lui, il n'est pas rentré. Gasperini disait, j'aurais bien aimé le faire rentrer, mais pour qu'il continue à accumuler du temps de jeu, parce que c'est un joueur qui a besoin de se mettre en route physiquement, parce que c'est quand même une belle carcasse aussi à mettre en route. Mais là, il s'entraînait normalement aujourd'hui. Je regardais l'Écho di Bergamo, qui a le journal local, hein, qui a expliqué qu'il avait fait toute la séance et qu'il n'y avait pas de problème. L'organisation stricte sans ballon de Gasperini, on la connaît évidemment. Ce qui est dans le travail de Gasperini très intéressant aussi, et comment on évalue le travail de l'entraîneur, c'est comment il fait progresser les joueurs. Et vous avez beaucoup de joueurs qui, quand ils regarderont leur carrière, à la fin de leur carrière, quand ils prendront leur retraite, se diront, je dois pas mal de ma carrière quand même à Gasperini. Il y a des joueurs qui sont devenus internationaux grâce à Gasperini, qui, sincèrement, pour les avoir vus avant dans d'autres championnats, dans d'autres circonstances, ne seraient pas devenus, ou en tout cas, on peut pas le savoir à 100%, mais à 99% ne seraient pas devenus internationaux. Je pense à des Martin de Roon, je pense à des Hans Attebourg, à des Robin Gosens. Tous ces joueurs-là, je doute clairement qu'ils auraient pu devenir internationaux sans faire la rencontre avec Gasperini. Et puis Gasperini, c'est aussi quelqu'un de très ambitieux. Alors parfois, ça fait des petites frictions avec les dirigeants, parce que quand on lui donne un joueur qui, malgré tout, est bon, mais qu'il estime que ça correspond pas tout à fait à ce qu'il a envie, il va vous le dire clairement. Et ça passe pas toujours. Par exemple, celui que j'appelle tout le temps le meilleur directeur technique d'Italie, Sartori, qui est aujourd'hui à Bologne, s'il est parti de l'Atalanta, c'est parce qu'au bout d'un moment, ils étaient plus capables de manger à la cantine ensemble. Donc ça devenait un peu trop compliqué. En termes de relations humaines avec les dirigeants. Donc, il a toujours ce côté un peu excessif, Gasperini, avec ses joueurs, avec ses dirigeants.
Il n'est pas très sympathique, il paraît quand même.
Il est même plutôt antipathique.
Je disais une déclat d'un joueur à lui, qui l'a eu pendant 2 saisons et demie, le Danois, Joachim Meyle.
Mais on peut demander à Castagne.
Il avait dit, il décidait vraiment de tout, Gasperini, avec lui. On ne se sent pas comme une personne, on a l'impression d'être un numéro.
Oui, c'est l'impression.
Les joueurs sont des moyens vraiment pour lui.
Oui,
c'est pas beaucoup d'humains.
C'est un peu l'impression qu'il peut donner. Après, il y a d'autres joueurs qui vous diront que pas du tout, avec qui le feeling humain est sans doute mieux passé. Mais c'est vrai qu'il a ce côté-là un peu dictatorial déjà. Ensuite, très branché foot et moins branché sur l'aspect humain. Alors qu'aujourd'hui, on insiste beaucoup chez les entraîneurs bien pour les entretiens individuels,
le management,
humaines, le management, etc. Donc, et puis c'est quelqu'un de clivant parce que il y a des gens qui vont t'expliquer qu'il a un côté quand il prend la parole très professoral et que ça agace un petit peu. Alors que moi, je considère que quelqu'un qui a des idées, il a le droit de les exposer, d'en parler et de dire qu'un entraîneur ne lui plaît pas parce que pour X ou Y raison, son jeu ne l'intéresse pas. C'est quelqu'un qui a aussi côté un peu chouineur, quoi. Quand il y a les décisions arbitrales qui vont pas, il a tendance à bien insister dessus. Donc ça plaît moyennement. Il y a l'épisode Covid que j'avais raconté il y a quelques mois dans l'after où avant le match à Valence en Ligue des Champions, juste avant que le Covid éclate totalement dans toute l'Europe, alors que les camions militaires sortaient de Bergame avec des dizaines de cadavres pour évacuer les cadavres de la ville de Bergame, lui avait dit j'avais le Covid, mais en fait j'ai rien dit et j'ai fait le déplacement à Valence et c'était très mal passé dans l'opinion publique italienne. Ben donc il y a un côté qui séduit pas, mais pour tout l'aspect football, purement football, ce qu'il aura fait aujourd'hui, c'est extraordinaire. Et si aujourd'hui on parle d'une école Gasperini en Italie, parce qu'on parle d'une école Gasperini, c'est-à-dire tous les élèves du maître Gasperini, les Paladino, les Gilardino, les Juric et compagnie, qui vous expliquent comment Gasperini a influé sur leur vision du football, sur leur vision du métier d'entraîneur, c'est tout simplement pour moi l'entraîneur le plus influent depuis des années et des années en Italie.
Bon, on a des messages sur le chat du YouTube de l'After. T'as Coucou qui nous dit c'est mort après à l'heure pour jeudi. Merci Johan de plomber l'ambiance.
Non, mais c'est pas du tout ce que.
Un mot sur les faiblesses éventuelles de l'Atalanta. Ce sur quoi doit appuyer l'Olympique de Marseille ? Avec ses qualités d'ailleurs.
Alors, il y a un truc qui est certain, c'est que si Marseille ne met pas l'intensité, ça va être très compliqué pour eux. Donc, déjà, le premier truc, c'est de leur rentrer dedans. Clairement, les privés de ballon, ils aiment pas ça. Et. Après, il faut faire aux transitions. Quand il est pris de ballon, il faut aussi prévoir ce qui peut se passer à la perte du ballon. Parce que là-dessus, ils sont très, très forts. Que vous mettiez des deux Ketelaere, Scamacca, Cope Miners, ou même quelqu'un qui va vite devant, comme un Lookman, par exemple, qui est quelqu'un qui va très vite, qui est très puissant. Donc, il faut faire attention à ça. Moi, je pense qu'il faut les priver de ballon. Je pense qu'il faut faire circuler le ballon le plus rapidement possible pour éviter cet impact du marquage individuel. Et après, il faut jouer très court dans les petits espaces où là, ils auront un peu plus de mal parce que techniquement, ils sont un peu moins bons. Évidemment, c'est pas la meilleure équipe technique d'Italie, mais c'est en ça aussi que le travail est extraordinaire. C'est qu'avec des joueurs qui parfois sont même un peu clairement limités techniquement, il arrive à proposer un jeu productif et proactif et c'est ça qui est beau.
Voilà la présentation exhaustive complète de Johan, supporter marseillais. Si vous nous avez écoutés, voilà, vous en savez plus sur l'Atalanta et sur l'homme qui porte ce club et cette équipe depuis 8 saisons déjà, Gasperini. C'est l'heure de la 3e minute de la soirée. Elle est allemande. On envoie la musique, Polo. C'est pas très Polo Breitner, ça, non? Si?
Ben non, c'était pour continuer avec l'Italie.
Qu'est-ce que c'est que ça, Polo?
Il a changé
de Polo. Tu vas quand même pas me comparer ta bouse avec Ligabue italien, quand même.
Alberto Colucci, ouais, c'est très allemand. C'était un hommage à l'immigration italienne en Allemagne qui a fait il y a plus de 30 ans cette chanson qui est devenue culte en Allemagne.
Ah oui, donc c'est italien.
Le soleil brille, quand en plus en Europe c'est pourri en ce moment, c'est fabuleux. Et qui supportait notamment le club de Darmstadt, qui malheureusement est le premier relégué cette saison. Le titre de cette chanson, c'est le soleil brille, le culte reste. Et bien, excusez-moi. Et donc, c'est Alberto Colucci, qui est un producteur en Allemagne, qui est arrivé, je crois, dans les années 70 et qui a pas arrêté de sortir des chansons, qui a adapté évidemment son répertoire à la culture alémanique. Et ça donne ça notamment pour le football. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à l'immigration italienne très importante en Allemagne.
On vous a pas envoyé les meilleurs chanteurs, Polo.
Je sais pas. Enfin, moi, depuis que c'est toi qui t'occupes de la musique italienne, j'ai pas bien compris par rapport à la liste que j'ai moi chez moi.
Olé, olé, hein.
Mais c'est pas grave.
Dire olé, 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 olé.
Olé, olé, olé. Tu mets 10 ans de shine.
Polo vient quand même dire que depuis 2 ans, il a pas validé un seul choix de ta musique italienne.
J'ai pas dit qu'il a pas validé, mais il y a pas de tout.
Si, si, il a validé Celentano, je pense.
Oui, c'est ça, peut-être.
Attends, il y a l'ivoirien de Colombie.
Bon, de quoi on parle en ta minute, Polo?
C'est du cassave allemand.
Ah oui, c'est c'est Darmstadt qui est relégué malheureusement pour sa cinquième saison en Bundesliga. Donc c'est le premier. En plus, à la 31e journée, il y avait la rencontre des deux promus, puisque Darmstadt jouait Heidenheim. Et en plus, ça s'est mal passé. Il y avait 0-0 pendant les arrêts de jeu. Le but d'Heidenheim validé par la VAR et finir comme ça cette saison 2023-2024. C'est un petit peu dommage pour Darmstadt, mais c'est comme ça. Premier relégué de la saison 2023-2024.
Bon, en 30 secondes, Aix-la-Chapelle, image Arène. Exceptionnelle,
Arène.
Extraordinaire, Arène. Qui monte de D4 en D3.
Ouais,
devant.
Qui revient surtout, parce que c'est un ancien club de Bundesliga historique, devant plus de 30 000 spectateurs, 30 313, ils sont en Regional Liga West, enfin l'Ouest.
Sur des amateurs.
C'est la première division amateur, ouais, il y a comment ça s'appelle, 5 divisions amateurs en Allemagne. Et voilà, donc Aachen revient en 3e division, avec la chapelle, pardon, et on se retrouve donc en 3e division, qui est aussi un peu le cimetière des éléphants, donc c'est normal qu'ils se retrouvent là-dedans.
Cher à Napoléon, avec sa chapelle.
Et à Charlemagne.
Et à Charlemagne surtout, ouais, puisque je dis Charlemagne. Bon, voilà, c'était la minute de Polo. Plus musicale, vous l'avez remarqué, que foot. Hein. On a fait 1 minute 40 de musique.
On aurait mieux fait 20 secondes de foot. Il y a la fameuse eau d'Aix-la-Chapelle qui s'enlève pourrie. Il y a tellement de soufre.
Tout à fait, c'est vrai.
C'est très bon pour la
d'Aix-la-Chapelle. Tout à fait. On fait des cures. Restez avec nous. Dans un instant, la suite de Génération After avec les drôles de dames. Bien sûr, on va parler du clash. Salah Klopp, les coulisses, il va nous révéler, parce que bon, il connaît bien les deux, Julien. Il a des infos exclusives à nous donner ce soir. Pourquoi Mo Salah s'en est pris à Klopp et Klopp s'en est pris à Salah dans un instant. D'abord, un point Ligue 2, mon cher Gibo, Dunkerque, Auxerre.
Et Dunkerque qui mène toujours 1-0, une seule action et un but pour les Dunkerquois avec Yacine à la 20e. Grosse domination des Auxerrois, des occasions multiples, plein de corners, 4 au total, mais pour l'instant ça tient bien défensivement. Mais si ça continue comme ça, à un moment ça va finir par craquer. Mais pour l'instant la bonne opération et pour Dunkerque qui s'écarte un petit peu de la zone rouge. 1-0, il reste 10 minutes avant la pause.
Et puis merci de me sauver, hein. Mirko et Mauro Bergamasco sont deux joueurs de rugby italiens internationaux. Voilà. Ça serait bien qu'il y ait des Bergamasco quelque part.
C'est possible.
On revient dans un instant avec les Drôles de Dames sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les Drôles de Dames sur RMC, il est 21h22, n'oubliez pas 21h45, le quart d'heure des auditeurs. Vous faites le 32-16. Max Salah, il prend vos appels, vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. N'hésitez pas, il y a également des questions qui sont tombées depuis maintenant 1h20 sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Avec ton micro, c'est mieux, mon cher Fredo. Avec ton micro.
Patrick Audran me dit que je me mouille pas sur les pronos. Je connais personne qui peut donner un pronos.
On n'est pas là pour faire des pronos
sur Real, sur Real Bayern, Bayern Real. Je sais, impossible.
Bon, puis il y a aussi Karim qui dit Polo doit adorer Richard Gottener et Bernard Menez également, peut-être.
Oh, jolie poupée.
Voilà.
Sur mon doigt coupé. Oh, jolie coupée. Tiens, je me demande si c'est pas une version espagnole.
Bernard Menez a fait un film qui s'appelait Men Océan qui date des années 70 de mémoire, qui est assez extraordinaire et culte. Mais ça, c'est pour ceux qui ont envie de voir le cinéma.
Mais c'est un personnage culte, Bernard Menez.
Ah, j'adore.
Ouais. Je connais quelqu'un qui l'a connu de près.
C'est moi culte.
Je
dirais
pas ça comme ça.
D'accord. Hier, West Ham Liverpool. Avançons. 82e minute, mon cher Julien. Deux buts partout. Mo Salah patiente, bord terrain, pour entrer en jeu. Jürgen Klopp s'approche de lui. Lui glisse quelques mots. Salah, visiblement, n'aime pas ce qu'il entend. Échange tendu entre les deux. Julien, est-ce que ce soir, sur RMC, à 21h23, tu vas nous révéler ce qui s'est dit entre ces deux hommes?
Non.
Ah non,
réponse est non. Mais on va essayer de comprendre. Non, mais parce qu'on sait pas. Pour reprendre les mots de Mo Salah lui-même en zone mixte après le match, si je parle, je vais mettre le feu. Donc il a rien dit. Jürgen Klopp lui nous avait expliqué, comme souvent les entraîneurs le font, on en a parlé dans le vestiaire, c'est réglé. Et quand quelques minutes plus tard, Mo Salah sort et qu'il dit si je parle, je mets le feu, c'est que c'était pas réglé du tout et que Klopp il nous a bien fait à l'envers. Mais on peut pas lui en vouloir non plus. Je pense que Jürgen Klopp, il lui reste quelques semaines au club, il a pas envie que ce soit gâché par des histoires pareilles. Mais ça peut s'expliquer, je pense, dans le sens où c'est la deuxième fois en trois matchs que Mo Salah a été sur le banc des remplaçants, ce qu'il ne doit pas apprécier. Il avait été une première fois contre Fulham où on s'était dit bon, il a mis Darwin sur le banc, il met Salah sur le banc, il met McAllister sur le banc, il joue beaucoup, même s'ils sont sortis, ils ont été éliminés par l'Atalanta en Europa League, mais ils ont beaucoup joué, ils peuvent se reposer, pas de problème. Ils sont titulaires ensuite, surtout Salah pour le match contre Everton dans le derby que Liverpool perd la semaine dernière, où ils sont tous mauvais comme des cochons, mais surtout Salah qui vraiment depuis la CAN et depuis sa blessure n'est pas au même niveau, n'est pas à son niveau habituel, on va dire, même à 31 ans. Et là, avant le match de West Ham, un peu coup de théâtre parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il soit titulaire, il est encore une fois remplaçant. Il va pour entrer en jeu, comme tu l'as très bien décrit, Nico, quand le match est à 2-2. West Ham vient d'égaliser alors que Liverpool menait 2-1. Liverpool a raté plein d'occasions. Je pense que Klopp s'approche de... Alors déjà, il a fait un câlin à Darwin. Il fait un câlin au troisième remplaçant qui va entrer. À Salah, il lui tape juste dans la main. Donc déjà, tu sentais qu'il y avait un petit peu de tension là. Je pense qu'il s'approche de Salah pour lui dire au moment où il va rentrer en jeu, écoute, il y a deux partout, j'ai besoin que tu fasses quelque chose, il reste 10 minutes, c'était on jouait la 80e, 81e. Et je pense que Salah se retourne et lui dit, mais tu sais quoi, si t'avais voulu que je fasse quelque chose, fallait mettre d'entrée titulaire. Moi, je pense que c'est un truc comme ça qu'ils ont dû se dire. Parce que tu vois vraiment Klopp qui va vers Salah, qui lui glisse un mot. Et ça pourrait très bien être, voilà, il y a 2-2, il nous reste 10 minutes, fais le maximum, va marquer un but. Tu sais que souvent les entraîneurs, ils disent, je sens qu'il va marquer maintenant. Je sens, et après le joueur dit, ouais, le coach me l'avait dit que j'allais rentrer et marquer. Et je pense que Salah se retourne et lui dit, non, mais si t'avais voulu que je fasse quelque chose, t'avais qu'à me mettre au coup d'envoi et pas maintenant, à 10 minutes de la fin. Pourquoi tu me fais rentrer si tard? Etc., etc. Et ça devient tellement chaud que Salah, avec son doigt, a le doigt pointé vers Klopp et Darwin Núñez. Et il doit être là, les séparer en gros et dire à Salah, vas-y, calme-toi. Et une scène comme j'ai jamais vue. Mo Salah, en plus, qui est quand même quelqu'un d'assez gentil. Klopp, qui lui peut être un peu comme un volcan, mais qui on n'a jamais vu vraiment s'embrouiller comme ça. Avec ses propres joueurs à lui. Donc c'est vrai, c'était une scène assez incroyable samedi midi à West Ham.
Ça a dû beaucoup faire parler et alimenter les médias anglais depuis hier, bien sûr. On parlera, tiens, du successeur de Jürgen Klopp bientôt, hein, quand ce sera officiel, Arne Slot, avec Julien et avec Johan, bien sûr, entraîneur du Feyenoord Rotterdam, car vous êtes nombreux à nous poser des questions sur son style, sur ce qu'il peut apporter et ce qu'il peut être le vrai successeur sur la durée de Jürgen Klopp, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais évoquer aussi avec vous? Tiens, Polo, un mot également du Shabby Time. Tout le monde sait...
Ben, tu sais, nous, une petite histoire de
clash. Ah, les clashs, ouais,
les embrouilles.
Ouais, les embrouilles. Alors, faites 20 secondes chacun.
Oh, wow.
Les gars, parce qu'il reste 2 minutes 20. On est préparé, c'est effectivement histoire
déçu,
de clash dans le foot professionnel.
Je peux commencer.
Ah, Johan, vas-y.
Je fais très rapide. Delio Rossi et Adem Ljajic, du temps de la Fiorentina. Fiorentina Novara, match de championnat, fin de saison. Novara mène 2-0 au bout d'une demi-heure. L'entraîneur Delio Rossi de la Fiorentina décide de sortir Ljajic. Il le prend très mal, l'insulte, l'applaudit, lui fait des pouces levés comme ça, à ras le visage. Et là, Delio Rossi descend sur le banc, lui met une droite. Voilà.
Clinique, magnifique. Sanction derrière, quoi?
Bah,
quoi,
sanction derrière, écarté de la Fiorentina, évidemment, et il avait pris 3 mois de suspension.
Oui, c'est pas la série La Fièvre sur Canal+, où le mec met un coup de boule à son entraîneur et le lendemain, il y a l'entraînement, quoi. Ce qui raconte la qualité de la série. Vas-y.
Janvier 2013, Coupe du Roi. Real Madrid-Valence, qualification de Valence. Pendant tout le match, l'entraîneur José Mourinho pourrit son joueur vedette, un certain Cristiano Ronaldo, en expliquant qu'il ne travaille pas assez, qu'il ne vient pas assez défendre. Il y a le latéral gauche, c'était Coen Trao, c'était pas une flèche, et donc il fallait beaucoup l'aider. Il dit, oui, Coen Trao est en difficulté. Donc il lui prend la tête pendant tout le match. À la fin du match, dans le vestiaire, Cristiano Ronaldo va voir Mourinho et là ça se passe très 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 mal. On raconte que Cristiano Ronaldo était à deux doigts de lui en mettre une et que c'est Casillas qui a empêché Cristiano de mettre une droite ou une gauche, je ne sais pas lequel est son meilleur point, à Mourinho. Donc les deux portugais, les deux avec le même agent, Jorge Mendes, etc. Et d'ailleurs on considère, ça a été les 6 derniers mois de Mourinho au Real, on considère que ça a été vraiment la petite goutte qui a totalement séparé le vestiaire de Mourinho et qui est parti quasiment avec le goudron et les plumes de ce Real là.
Polo, histoire de clash en Allemagne.
Histoire de clash, mais pas un clash entre un joueur et son coach, mais plutôt un coach avec un joueur de l'équipe adverse. Norbert Meyer, pour ceux qui connaissent les anciens, c'était le meneur de jeu de la RFA à l'Euro 84. Il était allé en 2005-2006, il était coach à Duisbourg. Et en fan, il s'engueule sur le terrain avec un certain Streit qui au passage veut dire différent, conflit, et il lui met un coup de boule. Mais en plus, il fait exprès de tomber. C'est-à-dire que c'est le joueur qui lui aussi évidemment a fait exprès de tomber par la suite, va être suspendu, se prend un rouge confirmé et finalement Norbert Meyer sera suspendu pendant longtemps des terrains et sera tout simplement viré du club de Duisbourg.
Magnifique. Bon, Julien, il y en a un paquet, hein. C'est vrai que le Salah Klopp, c'est pas grand-chose à côté de ce que tu as vécu en Angleterre, Julien.
Neuer et Kieran Dyer, Newcastle, oui, qui se battent entre eux, donc entre coéquipiers de Newcastle sur le terrain pendant le match, extraordinaire.
Extraordinaire, bien sûr. Voilà.
Parce que vous rappelez, hein, pour faire très vite, la femme de l'un, l'autre. Voilà, on va pas raconter non plus dans les détails. On fera, on le fera dans la libre antenne un soir. On sera plus tard. Il y a des enfants qui écoutent.
Un jour, un soir, on va tout balancer.
Voilà les gars, c'était la minute nostalgie historique. Mais je l'avais oublié pour tout te dire. Hein. J'y tenais absolument. On l'a fait, c'est très bien. Bon, je voulais faire un chabit, Je voulais faire le chabit time. C'est quoi, j'avais tellement ça en tête, c'est terrible, Polo.
Là,
Polo m'envoie un mail.
C'est plus qu'un euro là.
Je veux parler du
chabit. C'est plus qu'un euro là. C'est ton salaire.
Non, mais Polo envoie un mail et dit je veux parler du chabit time. C'est resté, la sonorité est restée en fait. Bon, voilà. Ouais. Bon, Polo, t'as pas aimé toi l'emballement autour de la nouvelle égalisation à la 85e minute du Bayer Leverkusen pour arracher un nul de partout, 46e match consécutif sans défaite.
Bah non, parce qu'en fait, ça oublie la prestation des joueurs de Leverkusen depuis quelques semaines.
Oui, c'est ça.
Et ça devient pénible au bout d'un moment.
Ouais, c'est ça.
Exactement.
On s'amuse au Bayer Leverkusen, mais il y aura une demi-finale importante contre la Roma en Ligue Europa jeudi. On en parlera également.
Et la bourde monumentale de Ter Stegen, ça lui ressemble pas, pour l'égalisation de Valence contre le Barça à Montjuïc.
Allez, toujours 1-0 pour Dunkerque face à Auxerre. On en parle dans un instant aussi avec Gibault. T'as pas oublié, mon cher Gibault, un partout donc entre le Barça et Valence. Reste avec nous dans quelques secondes. Nous allons parler de l'Inter, 20e Scudetto avec Johan. Reste avec nous, c'est les Drôles de Dames sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bon, je voulais faire un chabit. Je voulais faire le chabit time. qui réactive ce Polo? Paul Bexio, notre réalisateur. Bon, on est ensemble. Drôle de Dame sur RMC. Il est 21h34 avec Julien Laurence, Polo Breitner, Fred Armel et Yoann Crochet. C'est la mi-temps à Dunkerque, mon cher Gibault, face à Auxerre.
Exactement, sur le score de 1-0 pour les Dunkerquois. Deux occasions pour les Nordistes. Un but à la 20e de Yacine et puis un poteau pour Youssouf. Alors que la domination était nette et sans bavure des joueurs de Christophe Pélissier. Des occasions assez incroyables et pour l'instant, ça ne paye pas comme au match aller. Eh bien, Dunkerque avait fait le hold-up à la Baie des Champs. Pour l'instant, ça en prend la tournure. Il reste 5 minutes à jouer ici à Marcel Tribu, 1-0 pour les Nordistes.
Avant de parler de l'Inter, je donne rendez-vous dans un prochain Génération After Drôle de Dame pour évoquer une petite révolution en Angleterre que Julien évoquera bien sûr avec une limitation des dépenses qui a été votée des clubs anglais dès la saison 2025. C'est un peu obscur pour l'instant, Julien, c'est vrai que c'est complexe à expliquer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y aura plus de dépenses illimitées des clubs anglais.
Voilà, c'est ça. Ce sera indexé sur les droits télé des clubs qui gagneront le moins d'argent. Aujourd'hui, le vote c'était pour que la Première Ligue puisse présenter son projet au club au mois de juin lors de l'Assemblée générale. Donc, il y aura un nouveau vote au mois de juin. Donc, c'est possible que ça passe pas. On sait aujourd'hui, par exemple, c'est assez marrant en soi que Manchester United, Aston Villa, Manchester City ont voté non, ont voté contre la limitation des dépenses, et que Chelsea s'est abstenu,
oui, c'est ça.
Dans le vote. Les 16 autres clubs, donc tous les autres ont voté oui. Sauf ceux que je viens de nommer.
Voilà, les clubs disputant les compétitions européennes seront plus limités que ceux qui ne sont pas qualifiés. Donc, il y a une volonté de rééquilibrage, peut-être en première ligue. C'est ça. Ce serait intéressant. Il faudra qu'on prenne le temps de l'expliquer. Ça peut être une révolution pour le football européen également. Parlons d'Italie, car on a un champion en Italie, on a un champion en Allemagne, c'est le Bayer Leverkusen. On a un champion en Espagne, c'est pas encore mathématique, mon cher Fredo, pour le Real.
Non, mais c'est
bon. Voilà, c'est acquis.
Là, c'est 4. Ça fait 1 pour l'instant, c'est 13 points d'avance sur le Barça.
Donc. Tout simplement. Et donc, nous avons le 20e Scudetto qui n'est plus une surprise pour l'Inter. 20, ça pèse énormément, bien sûr, dans l'histoire du football italien. Comment tu qualifierais ce titre pour l'Inter par rapport à celui de 2021, mon cher Johan?
Complètement mérité. Alors, on revient sur la notion de mérite, mais alors, je vais dire extrêmement impressionnant.
Plus encore que 2021.
Ouais, nettement plus parce que le jeu est d'une meilleure qualité que sous Conte. Vous savez toutes les limites que je disais d'Antonio Conte, notamment sur le fait que en Coupe d'Europe, si ça ne passe jamais, c'est qu'il y a aussi une raison à travers son approche du football. Là, moi, j'ai tout aimé de la saison de l'Inter. De toute façon, on en parle très régulièrement dans l'after, même si sur le chat YouTube, nous avons Angelo qui trouve qu'on en écoute, qu'on n'en parle jamais assez ou qu'on n'en parle pas du tout, avec qui je discute sur le chat actuellement. Mais bon, en étant supporter de l'Inter, il voudrait qu'on parle de l'Inter toutes les semaines, ça se comprend. C'est tout a bien fonctionné du recrutement cet été qui était très intéressant parce que les profils ont été extrêmement bien ciblés. Quand il y a un mois et demi, je faisais l'analyse du jeu de l'Inter et d'Inzaghi et notamment son approche très moderne dans l'interprétation de certains rôles, notamment les défenseurs centraux qui avancent balle au pied, qui créent des situations dans le jeu, dans l'élaboration du jeu, dans la construction du jeu de l'Inter, et notamment avoir su identifier que Bastoni était un point fort sur ce côté-là, et notamment son jeu long aussi pour renverser le jeu, enfin beaucoup de choses, des triangles sur le côté avec Di Marco, etc. Et d'avoir réussi à trouver que à droite, il fallait aussi un pendant, et que à droite, ils ont pris Benjamin Pavard, qui est évidemment très à l'aise aussi ballon au pied, qui a sans doute été sa meilleure qualité, plus que son aspect purement défensif. Enfin, je sais pas comment Polo peut évoquer son passage au Bayern, mais moi, j'ai toujours aimé Benjamin Pavard ballon au pied. Je trouve qu'il a des aptitudes qui me plaisent beaucoup. La reconnaissance des espaces, la compréhension des situations, à qui donner le ballon, où trouver les relais, où prendre l'espace, comment combiner. Je trouve qu'il était vraiment très, très intéressant.
La qualité de contrôle et de passe également.
Exactement, même de jeu long aussi. Donc, je trouve que le recrutement avait été très, très bien ciblé. Donc les dirigeants ont fait un très bon travail, notamment l'administrateur délégué de la section sport, BP Marotta, qui est figure emblématique du championnat d'Italie, qui était avant à la Juve et avant encore à la Sampdoria, et qui est maintenant à l'Inter. À Ausilio, qui est le directeur sportif. Donc c'est vraiment ces deux hommes-là, plus la cellule de recrutement, qui ont bien travaillé sur ce volet-là. Il y a aussi évidemment... c'est marrant, il y a un match de la GIA ce soir, et vous savez que j'aime beaucoup ce club, et j'ai dans mon podcast, j'ai fait un podcast avec Christophe Pelissier il y a un mois, je crois, un truc comme ça. Et lui, il est un peu spécialiste des montées, Christophe Pelissier. Il a fait plein de montées dans tous les clubs dans lesquels il est passé, dans plein de divisions. Et dans les secrets, enfin pas vraiment les secrets, mais dans les choses qu'il a pointées sur la réussite d'une montée et de l'obtention d'un titre ou d'un événement important, le premier truc qui lui vient en tête, c'est la cohérence entre dirigeants et entraîneurs, la cohérence sur et l'entente sur la définition d'un projet commun. Et je trouve qu'à l'Inter, ça a été parfaitement fait. Je trouve que le soutien à Inzaghi a été mis en avant là où il le fallait la semaine dernière, où c'était un petit peu chaud, où il était très critiqué. Ils ont été très bons là-dessus, les dirigeants. Quand il a fallu amener des joueurs pour ce que voulait Inzaghi, ils l'ont fait. Quand il a fallu titiller un peu les joueurs, les dirigeants l'ont fait. Simone Inzaghi l'a fait. Beaucoup plus d'exigences que la saison passée. Le fait que les trous d'air, on les a pas connus cette saison. Sauf malheureusement le match à Madrid qui était vraiment mauvais, mais Inzaghi a d'ailleurs pas été très bon non plus, je trouve, dans les choix. Mais il y a vraiment pas eu de trou d'air cette saison, et cette exigence au quotidien que les joueurs ont su répercuter semaine après semaine, cette exigence qu'ils ont mis, ces leaders qui ont vraiment pris cette place de leader, les Çalhanoğlu, les Barella, le nom va me revenir, Lautaro, le capitaine évidemment, qui ont eu vraiment un rôle d'exemple aussi pour les joueurs qui sont arrivés, qui ont tout de suite compris là où ils mettaient les pieds, l'exigence que devait avoir l'Inter, le statut de favori qu'ils avaient, clairement, parce que même si c'était pas la plus grosse masse salariale d'Italie, c'est la deuxième, mais en termes de qualité d'effectif, c'était les meilleurs. Et puis Simone Inzaghi qui a su aussi un petit peu évoluer, qui a fait évoluer son jeu, qui est devenu plus moderne, qui a fait évoluer un petit peu sa communication, même si, ça pourrait être encore un petit peu mieux de ce côté-là. Donc vraiment, moi, des joueurs qui mettent de côté leur ego sur toute une saison, quand on est à l'Inter, c'est pas toujours évident. On l'a vu la semaine dernière. Quand les dirigeants travaillent bien, quand l'entraîneur travaille bien, quand l'entraîneur a envie de progresser, qu'il fait progresser les joueurs, quand il a envie de se moderniser, que le jeu proposé est de qualité, et qu'en plus, derrière, il y a plein de répercussions positives sur le volet économique, parce que les résultats amènent des bons bilans financiers, enfin des meilleurs bilans financiers, qu'en plus, ils vont aller dans cette fameuse Coupe du Monde des clubs qui va ramener de l'argent.
C'est la question qu'on nous pose sur le chat, mon cher Yohan. Et maintenant, est-ce que l'Inter peut créer une série comme la Juve l'a fait longtemps en Serie A, peut être encore plus ambitieuse dans Ligue des Champions? Bon, il y avait une finale la saison dernière. Est-ce que ça peut devenir un mastodonte européen? Voilà, simplement.
Alors, bon, on en avait parlé un peu il y a un mois et demi à peu près, quand on a fait ce débat-là. Moi, je pense que oui. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, dans la Gazzetta, l'édito était de Sacchi. Et Sacchi dit maintenant, voilà ce qu'il faut pour ouvrir un cycle victorieux à l'Inter. Et notamment, il y avait dans cet édito le focus très important sur savoir qui reste dans le projet, dans l'effectif actuel.
Alors.
Et à qui il faut dire un petit peu adieu, parce que t'estimes que il a gagné, il sera peut-être un peu suffisant les années d'après. Peut-être que il y a des joueurs qui sont ok, ils étaient dans le projet, mais peut-être que tu peux avoir mieux comme type de joueur.
Par exemple.
Par exemple, les deux à peu près sûrs et certains de partir sont Klaassen, qui a pas servi à grand chose, et Alexis Sanchez.
Qui est libre et qui partira d'ailleurs.
C'est ça, parce que ils vont prendre Taremi de Porto, et forcément, quand on compare pas simplement l'âge, Alexis Sanchez est un très beau joueur, mais normalement, Taremi est censé t'amener outre un jeu un petit peu différent, mais plus de de sûreté dans la qualité des performances au quotidien. Il y a Zielinski qui va arriver aussi au milieu de terrain, donc
oui, ils sont en train déjà.
Ouais, qui va arriver au milieu de terrain, donc il y a quand même des joueurs qui de qualité qui vont encore amener un peu plus de densité dans cet effectif là, qui vont renouveler un petit peu. Ça qui disait, moi j'ai connu ça au Milan. Comment on a fait? Bah on a renouvelé petit à petit l'effectif parce que il faut pas que les joueurs prennent trop la confiance, qu'ils soient un petit peu suffisants, etc. Donc c'est ça la prochaine étape. C'est oui, bien sûr que le cycle peut être victorieux. Mais ça dépendra surtout beaucoup des joueurs actuels et comment ils se remettront de ce Scudetto-là qui a été fêté de manière incroyable et c'était génial. 300 000 personnes dans les rues de Milan, c'était fantastique. Sur la Piazza Duomo à la fin, à 23h, les fumigènes, les feux d'artifice, c'était génial. Mais surtout, maintenant, les joueurs, ils vont devoir digérer le Scudetto qui n'est pas toujours simple parce que je rappelle que 5 dernières saisons en Italie, 5 champions différents.
Tout à fait. Voilà pour le bilan de la saison de l'Inter et la projection également. Avant d'écouter la minute de Fred, tiens, pour préciser que Valence mène désormais 2 buts à 1, mon cher Fred.
Araujo ne fait pas des conneries que face au PSG, puisque là, il vient de commettre un penalty et très bien transformé par Pepe Lu. Et donc, Valence mène 2-1 sur la pelouse du Barça. Ça vous allez me dire, c'est anecdotique. Non, parce que la deuxième place est en jeu. Et en Espagne, quand on joue la deuxième place, là, pour l'instant, avec cette défaite, le Barça est troisième derrière Gérone. La deuxième place donne droit à aller en Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Et ça rapporte 5 millions d'euros au Barça s'il y va. Donc le Barça a tellement de problèmes d'argent que ça compte énormément. Déjà que le Barça, tu parlais du Mondial des Clubs, n'ira pas au Mondial des Clubs, mais là, il peut pas aller au...
Donc, moins 30 millions, moins 5 millions.
Non, mais c'est
on n'en est pas là en tout cas. Pour l'instant, 2-1, c'est pas encore la mi-temps. C'est parti pour la 4e minute de la soirée. Elle est espagnole. On envoie la musique, Polo.
Media luna brillará, la navaja acechará.
Vous reconnaissez cette voix? Un très bel homme espagnol, Miguel Bosé. Miguel Bosé, chanteur, acteur espagnol très connu. Très beau pédigré quand même. Son papa était Luis Miguel de Minguin, très célèbre torero. Sa maman, Lucia Bosé, actrice italienne. Son parrain, c'était Luchino Visconti. Et le parrain de sa sœur, c'était Pablo Picasso. Vous imaginez la famille. Il a écrit une très belle chanson qu'on écoute sur Sevilla. Sevilla, pourquoi? Parce qu'hier soir, il y avait le derby espagnol par excellence entre le Betis et le Sevilla. Un partout. Décevant dans le jeu, mais c'est toujours un derby coloré. J'insiste, c'est vraiment le... Quand on aime le foot en Espagne, il faut au moins voir une fois dans sa vie le derby sévillan. Malheureusement pour Pellegrini, et je le dis souvent, mais c'est encore la preuve que c'est sûrement un très bon entraîneur, mais pas pour les grands matchs. Il a disputé 9 matchs contre Séville. Et il n'en a gagné qu'un seul depuis qu'il est à la tête du Betis. Et d'ailleurs, quand il joue contre le Real, le Barça, l'Atlético et donc son grand rival, le Betis, en championnat, 31 matchs, une seule victoire contre les gros. Donc voilà, c'est un vrai blocage psychologique ou technique ou tactique, j'en sais rien, en tout cas de Pellegrini. Et puis c'est un match qui nous rappelle aussi hier qu'il y a un joueur extraordinaire qui a été élu le MVP du match, il s'appelle Isco. Qu'on a vraiment le sentiment à chaque fois qu'il est passé à côté d'une très grande carrière.
C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Dans un instant, la suite, le carré des auditeurs au 32-16. Vous appelez, posez vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan. Vous écoutez les Drôles de Dames sur RMC, 21h46. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Fred Armel, Jean-Laurence, Polo Breitner, Yvan Crochet. Beaucoup de réactions au choix musical de Fred, qui a été apprécié, mais. Qui est aussi qualifié de musique, de film de dimanche soir, tard.
De érotique. Non, mais voilà. Attends, mais Miguel Bosé.
Je savais que Julien Laurence avait pensé ça aussi. Un petit sexy zap le dimanche soir sur M6.
Il y a toujours une dimension érotique chez Miguel Bosé. Je vous rappelle cette scène.
C'est un beau gosse. Hein.
C'est un beau gosse dans Talon Aiguille, d'Almodovar.
Ah oui, quand c'est cette scène avec Victoria Abril. Bien sûr, à revoir. Scène mythique du cinéma.
Il y a Daniel qui est au loin qui dit c'était il y a 30 ans. Oui, mais ça existait. Enfin, à l'époque, il y a 30 ans.
Mais on est sur 30% de choix musicaux un peu érotiques de Fred dans la saison, je pense. Hein.
Ouais. Ça raconte, non, l'espagnol est naturellement érotique. Ouais,
ouais. C'est vrai.
Bah, c'est une langue. Bon. Dire, c'est pas comme celle de Polo, quand même, tu vois. Avec le respect que j'ai mis à proposer. Non, mais je dis ça, mais j'ai passé tous les week-ends à écouter Irgun Vi, Irgun Van, Irgun Vo de Nena.
Oui, de Nena.
Qui était mon grand amour quand j'avais 13 ans.
Fictif, évidemment. Hein.
Bah oui, bah, genre à 13 ans, j'ai rencontré amoureux. Mais vous n'étiez pas amoureux de chanteuse quand vous étiez petit?
C'est un autre débat qu'on mènera en fin de saison.
Il faut pas balancer les trucs.
Mon cher.
Après, les joueurs de foot,
à la radio. Les consultants.
Ah, ah oui, ça, d'accord. Oui.
La marotte de
en fait, c'est tous les lundis soirs, un taquet pour, contre les consultants.
Ouais, que tu n'oublies pas.
C'est une obsession. On le fera en fin de saison, ce débat. Alors, c'est parti pour les questions. Au 32-16, j'accueille Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Guillaume. Heureux de t'accueillir.
Vous allez bien ?
Bien, et toi ?
Tranquillement.
Ta question est pour qui, Guillaume ?
C'est pour Johan Crochet.
Alors, il t'écoute.
Salut, Guillaume.
Bonsoir. Je t'appelais pour savoir un peu en Italie, c'est quoi l'image qu'a Beppe Marotta, lui qui avait fait un travail à la Juve, qui est parti en 2018, au moment où ça commençait à moins bien aller avec la venue de Cristiano et le changement de politique. Et lui qui est en train de créer un peu un nouveau cycle qui ouais. fait penser à l'Inter qui va devenir le nouveau mastodonte, le nouveau rouleau compresseur, comme était la Juve dans les débuts des années 2000 à son arrivée quand il avait fait signer Pirlo, Vidal, Pogba, etc.
Bah, t'as tout à fait raison, Guilhem. C'est évidemment le grand architecte de cette équipe-là parce que le propriétaire de Zang, bon, s'intéresse au football plus ou moins et. Et qui de mieux que Beppe Marotta pour gérer un club quasiment de A à Z hein, sur la partie sportive. Alors, on lui a confié le projet de gagner tout de suite à l'Inter. Et là où il a été intelligent, c'est qu'il a construit une équipe. On appelle ça les fameuses instant team pour gagner tout de suite.
C'est, oui, c'était avec très. Avec Kyrian et Calhanoglu, par exemple.
Ouais, c'était très clair. C'est prendre des joueurs prêts, des joueurs fonctionnels pour l'entraîneur. C'est très important. C'est que t'as dit directeur sportif parfois. Qui prennent des joueurs par en fonction de leur goût personnel, mais sauf que t'es là pour aider l'entraîneur, c'est un petit peu différent. Et lui, Marotta, qui est pas directeur sportif, mais administrateur délégué, donc au-dessus du directeur sportif sur la partie sport, lui a tout de suite compris que dans sa carrière, il fallait absolument aider les entraîneurs parce que c'est ce qui allait valider le recrutement. Et donc tout le recrutement qui a été mené par Beppe Marotta a été fait en fonction des objectifs du club. Et très sincèrement, aujourd'hui, même en termes de représentation devant la presse, devant les médias, avant les matchs, après les matchs, beaucoup en Italie comme modèle d'organisation de club, ce qu'a fait l'Inter et notamment avoir un homme fort comme Beppe Marotta.
Beppe Marotta. Voilà Guilhem, la réponse de Johan. Guilhem, je suis désolé de te couper, mais il y a plusieurs appels, il faut qu'on accueille tout le monde. Désolé.
Guilhem, si tu as un Insta, envoie-moi un message sur
Instagram. T'envoies un MP à Johan Crochet. Bonsoir Guilhem. Karim est avec nous, supporter du Real. Bonsoir Karim.
Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde.
Heureux de t'accueillir sur RMC. Question pour Fred.
Oui, j'ai une question à Fred par rapport au retour de Thibaut Courtois de blessure. On a vu qu'il est il faisait partie du groupe.
Il est dans la liste,
qui est à Munich en ce moment. Moi, j'ai une question. Si jamais le Real passera le Bayern Munich, si toi qui es connaisseur du foyer madrilain, est-ce qu'Ancelotti est capable de mettre Thibaut Courtois titulaire par rapport à Lunin? Et la saison qu'il est en train de faire. Et est-ce que ça ne sera pas une forme d'injustice par rapport à lui?
Enfin, je peux me tromper, mais connaissant Carlo, en fait, il y a deux blessures. Il y a eu le ligament croisé, et alors qu'il revenait bien, il s'est blessé au ménisque. Donc il a de nouveau avoir une petite intervention chirurgicale. C'est vrai que c'est une petite surprise de le voir déjà dans le groupe. Ça paraît difficile parce que même la finale c'est dans un mois, c'est le 1er juin. Il faut même pour un gardien, il faut quand même retrouver des sensations, il faut retrouver un certain niveau physique, etc. Donc petit à petit, il revient plus vite que prévu. Mais surtout vu la dynamique qu'il y a aujourd'hui avec Lunin, ça me paraîtrait quand même très très bizarre de voir Ancelotti mettre Courtois sans vraiment de rodage en finale dans une hypothétique finale.
Voilà la réponse.
J'avais vu qu'il est possible qu'il soit titulaire ce week-end en Ligue 1.
Contre Cadix, ouais, enfin, on va voir.
Merci Karim. Non, fais le 32-16. Merci. Tu peux nous rappeler quand tu veux, lundi soir ou les autres soirs de la semaine sur RMC. Tiens, j'accueille Hugo, 32-16. Salut Hugo.
Salut à tous. Alors, j'ai une question pour Julien, parce qu'en discutant avec le Standard, apparemment, c'est plus un homme du peuple. Donc, on va vérifier ça tout de suite. C'est parce qu'il faut 2 millions d'abonnés, apparemment, pour l'avoir, Juju.
Tu m'as envoyé un message sur les réseaux, je suis désolé. J'ai plein de messages de plein de gens, là. Je vous promets, là, ce soir ou demain, je vais checker.
Non, Juju, écoute. Bon, on continue à croire au titre jusqu'au bout pour Arsenal, même si on attend un faux pas de City, ça va être compliqué. Et du coup, comme moi, j'ai eu mes places pour le dernier match contre Everton, du coup, à domicile. Je voulais savoir si tu allais être présent.
Ah, j'y serai Hugo, hein. On se redonnera rendez-vous devant le stade, j'y serai, ça pourrait être le match. Moi je pense que cette course elle va aller jusqu'au bout de toute façon. T'as raison, City, parce qu'ils ont leur destin entre leurs mains, on l'a expliqué tout à l'heure. Mais je pense que ça pourrait aller effectivement jusqu'au dernier match. City à domicile contre West Ham, Arsenal contre Everton, tu seras là. Et voilà, et ce sera quoi qu'il arrive une fête. Et on l'a dit, tu peux ne pas être champion avec 89 points, ce serait dur à avaler, mais ça montrerait aussi l'incroyable progrès de cette équipe d'Arsenal qui, on l'a montré, apprend contre le Bayern par exemple en étant éliminé, apprendrait aussi d'une saison où elle finirait deuxième derrière City à un point de City par exemple, puisque ça pourrait être le scénario. Mais ouais, il faut que tu sois là au cas où. Meilleure attaque, meilleure défense, t'as raison. Peut-être meilleur défenseur de championnat avec Saliba aussi. Enfin voilà, Odegaard, tout ça. Mais ça pourrait être aussi un jour de fête si City. Fait match nul d'ici à la dernière journée. Bon, ça pourrait jouer finalement.
Alors, parce qu'il va falloir montrer que t'es un homme du peuple.
Non, envoie-moi un message sur Instagram. Parce que sur Twitter, je reçois trop de messages. Mais sur Instagram, ça devrait être bon. Je vais t'envoyer
un DM. C'est coup de sifflet. Je vais t'envoyer un DM.
Allez, vas-y.
Voilà, Hugo, n'hésite pas. Hein, tu nous t'envoies une photo si tu as la chance de croiser le grand Julien Laurence.
Non, vous inquiétez pas, je vais le traquer.
Très bonne soirée à toi, Hugo. À très vite sur RMC. Dernière question. Tiens. Pierre est avec nous. Salut, Pierre.
Salut, Nico. Bonsoir, les drôles de dames.
Bonsoir, bienvenue. Salut, question pour Johan.
Nico, je te la fais rapide pour. Vas-y. C'est pour toi, Johan, en effet. Moi, la question, elle est simple. Le roi arrive. On a vu que Mike Maignan était blessé. Ah. Est-ce que tu as des news en Italie et qu'est-ce qui se passe s'il joue pas? Voilà ma question.
Nouvelle évaluation la semaine prochaine de sa blessure aux adducteurs, mais ça commence à faire beaucoup hein, pour Mike Maignan, entre les mollets, l'adducteur, la cuisse. Chaque saison, il y a des matchs ratés avec la sélection, oui, de l'équipe de France ou avec le Milan. D'ailleurs, deux fois, il s'est blessé aussi avec l'équipe de France. Hein, donc, c'est pas toujours à Milan qu'il se blesse, mais ça a des répercussions sur Milan. Et 28 ans maintenant, 2 ans de contrat. Avec une incertitude, tu vois, ce qu'il va prolonger ou pas. Quelques blessures de trop, il sort contre le Slavia Prague, là il joue pas, blesse à l'échauffement, tous les muscles un peu de la jambe sont touchés. En Italie,
priori,
on se pose un peu de questions.
Ça se fera pour l'équipe de France.
Oui, non, mais pour l'équipe de France, sinon on aurait été alerté dès aujourd'hui qu'il y avait des gros problèmes. Là, ils vont refaire un examen dans une semaine, mais peut-être qu'il ne rejouera pas avec le Milan cette saison, parce que là, il faut attendre une semaine déjà avant les prochains examens, et il reste plus 50 journées. Hein.
Voilà Pierre, la réponse de Johan, très concise. Merci à toi Pierre, bonne soirée à toi, à très vite sur RMC. Merci les drôles de dames, merci Fred, Johan, Polo et Julien. Rendez-vous dimanche soir, 20h pour le rendez-vous.
À dimanche. Les
drôles de dames, 20h, 22h sur RMC. Tout de suite l'after, bien sûr, avec Gilbert qui prend le relais jusqu'à minuit comme tous les soirs.
Génération After.